Exactement. Le mot est bien choisi, c'est ça a été
Il n'est pas encore
magnifique match des
pas
Interisti.
espagnol, désolé. Donc voilà. Donc le Milan qui a perdu 4-0 à domicile, enfin à domicile. Voilà, à San
Ouais, c'était
Siro.
eux qui recevaient, on va dire, ce soir.
Oui, ce soir, voilà. 4-0, voilà. Donc ce soir on va parler de tout ça. Il y aura une très large, il y aura une large page Europe, comme je vous l'ai dit, avec nos animateurs. Ils sont tous là, ils sont chauds, ils reviennent de vacances, ils sont tous bronzés, sauf Dan.
Pas trop bronzé quand même.
Et toi, bah oui.
Moi, je suis bronzé même en hiver, alors.
Ouais, voilà, faut pas qu'on soit comme Marvolo par exemple.
Bon, on va pas
Ça
commencer.
va le front?
Ouais.
Merci.
Marvolo, il est pas minuit, donc tu ne fais chier personne. Je suis le
Super.
premier. J'ai promis de faire chier personne avant minuit.
Il est minuit en Terre Sainte, j'ai le droit.
Arrête, les pauvres auditeurs, ils vont croire qu'on est trois à la radio là. Et présente donc les animateurs là. Qu'est-ce que tu fous là?
Eh ben alors, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, il y a, vous l'avez entendu, Arnaud qui a très envie de parler. Voilà.
Ah non, moi je ne parle plus maintenant. J'attends qu'on parle de Milan. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs.
Il y a aussi Adrien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous, Adrien. Enfin, bonsoir, Adrien. Il y a aussi Aurélien. Aurélien, salut.
Bonsoir tout le monde.
Salut, salut, Aurélien. Aurélien, je précise, le Lorientais, journaleur, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a aussi Dan aux manettes. Dan qui revient de vacances. Il y a Dizzy.
Tu l'as déjà dit, ça.
Oui, non, oui, je l'ai déjà dit, donc tu vas la fermer, s'il te plaît, Arnaud. Voilà. Il y a aussi Flo.
Arrête de le sucer, c'est bon.
Flo qui nous aide pour hoster la conversation. Il y a Habib aussi.
Le pire démarrage de l'histoire de la radio, on est vraiment désolé.
Oui.
Salut Habib, salut Hugo.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Et on vous promet que la promotion qu'a eu Roméo, on n'y est pour rien. On a été un peu pris de court et il est là comme ça un petit peu par...
Salut, donc ah, salut. Ça.
Salut à tout le monde.
Salut. Donc voilà, sans plus attendre, on va tout de suite parler du premier match. Enfin, du premier match. Il y avait 8 matchs, 7 matchs, pardon, de Ligue 1. Ce soir, je vais vous rappeler juste vite fait les résultats. Lens qui a fait match nul à domicile contre Rennes 2 partout. Boulogne et Auxerre 0-0. Sochaux a battu Monaco 1-0. Arnaud 3-0. Pour Montpellier à Nice, 1-0 pour Lorient à domicile contre Le Mans, 1-0 pour Saint-Etienne contre leur voisin Grenoblois et victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais face à Nancy, avec notamment un super but de Bastos. Voilà. Donc on va parler tout de suite du plus mauvais match, hein, du match qui a passionné tout le monde. Je veux bien sûr parler de Boulogne-sur-Mer Auxerre, donc je suppose que personne n'a vu ce match. C'est Ajrémy qui gracieusement nous raconte cette rencontre, nous parle un peu du match. Donc Ajrémy nous dit que pour ce match, donc qui a concerné Boulogne-Auxerre, c'était, il faut noter, il fait le premier 0-0 de la saison. Donc, et c'était un match vraiment nul. On peut l'appeler nul parce que c'était un match de merde. Voilà. Tant sur le plan comptable que sur le fond de jeu des deux équipes, en tout cas. C'est ce qu'ont ressenti les différents médias et les supporters auxerrois, nous dit Ajrémy. Côté auxerrois, justement, et alors, Auxerre a fait une première mi-temps très très faible où ils se sont contentés de bloquer les quelques attaques boulonnaises. Voilà. En deuxième période, ça a été plus on a vu des auxerrois plus entreprenants tout au long de la période. Ils sont enfin créé quelques occasions. Mais en même temps, ils ont sorti un milieu défensif parce que l'AG Auxerre a évolué avec deux milieux défensifs. Voilà, il y a eu Chafny qui nous dit à Jérémy que Chafny et Nicolas, comme à son habitude, ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont vraiment vendangé. Donc c'est tragique. C'est tragique pour l'AG Auxerre, nous conclut. En quelque sorte, enfin, conclure, nous dit en quelque sorte à Jérémy, faudra retenir que c'est le premier point qu'empoche la JA au classement et donc il remonte à la 18e place à 2 points de Saint-Etienne. Waouh! C'est une contre-performance pour Auxerre qui a joué quand même contre le promu boulonnais. Le promu boulonnais qui d'ailleurs, faut parler un peu, on a parlé d'Auxerre, on peut parler un peu de Boulogne, qui est 8e au classement, qui était 7e, mais qui est 8e, donc avec
7 points en 12 matchs surtout, c'est ça.
4 matchs. C'est pas mal pour le début, donc voilà pour...
Enfin, 7 points sur 12, pardon, pas en 12 matchs, mais...
Si d'autres ici ont vu ce super match qui était Boulogne-sur-Mer au CR, non. Personne.
À ton avis.
Ah, si, Yann, je savais.
Moi, j'ai pas vu, mais bon, on peut dire que quand même, 3 matchs consécutifs sans défaite, hein, c'est ça pour Boulogne. C'est quand même un bon début, même si un 0-0 contre Serre à domicile, c'est peut-être pas un super résultat, mais c'est quand même raisonnable pour une équipe qui, à la base, on annonçait qu'ils allaient se prendre des valises et qu'on voyait tous derniers du classement, peut-être. Et donc là, je pense que c'est quand même positif pour eux, en tout cas.
D'accord. Et donc voilà, sinon à part Yann, personne n'a vu ce match. Donc
j'ai pas vu le match même, mais Auxerre, ils ont encore marqué 0 but.
Comment?
Ils n'ont pas marqué. On dit pas ils ont marqué 0 but.
Vas-y. Te laisse.
Quel est le salaud qui est revenu avec... Il y en a un qui habite dans une quincaillerie ici, c'est pas possible. C'est quoi ce bruit là?
Quel bruit?
Bah il y a un truc, un vieil écho chez moi là. Ah bah ça doit être chez toi Romo, évidemment. C'est moi le paysan, mais...
Non.
Je me fie au patron, c'est Dan en régie qui me dit ça.
Ah, d'accord. Donc fions-nous au patron. Donc oui, vas-y, qu'est-ce que tu disais Hugo, continue.
Bah qu'Auxerre, ils avaient marqué 0 but en 4 matchs, qu'ils ont pas d'attaquant et que même contre Boulogne-sur-Mer, ils sont incapables de marquer un but. Ça devient plus qu'inquiétant, à mon avis. C'est pour moi, l'équipe la plus faible en Ligue 1.
Et Gélène, il est blessé encore ou pas là?
Oui. Ouais. Il revient fin septembre.
Ah bah c'est peut-être ça alors.
Et Licata aussi, c'est...
Oui, Licata et Gélène, il me semble, tous les deux reviennent fin septembre.
Le but de Bastos, effectivement. Faudrait que Habib va le mettre sur... Enfin, Marvoulou va le mettre sur le forum pour que vous puissiez le voir.
Non, en fait, c'est Joe Benzema 38, il me semble, qu'il a mis. Parce que j'ai cherché le lien avant l'émission pour vous le montrer. Bon, voilà, quoi, c'est monstrueux.
Exactement.
Je vous invite à... Bon, on le remercie d'abord, et puis, bon, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le regarder.
Merci Habib, merci Joe Benzema 38 pour ce but qui serait superbe. Super but de l'ailier brésilien. Donc voilà pour ce match, donc 0. Voilà, 0 sur toute la ligne. C'est un titre d'un quotidien français. Enfin, titre sur un site d'un grand quotidien français, voilà.
Juste un bon petit plus quand même pour Boulogne, on l'a dit.
Oui, vas-y.
Parce que un promu, ça reste quand même un bon début de saison, quoi. Ça reste le promu, enfin il y a Lens également qui a 7 points, mais bon, Lens connaît la Ligue 1, c'est des habitués. Pour moi, Boulogne, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment vraiment impressionnant. Même dans les championnats étrangers, où des fois on a des surprises, comme l'année dernière on en a vu en Allemagne ou une fois en Angleterre, c'est assez rare de voir un promu qui se porte aussi bien, et bon, espérons que ça va continuer.
Surtout avec aussi peu de moyens. Surtout avec aussi peu de moyens.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont le plus petit budget de Ligue 1, on le rappelle.
Avec Moreira comme recrue, Darrocha... quand même.
Oui, voilà. On ne souligne pas. Voilà, c'est le plus petit budget de Ligue 1. Tu voulais dire quelque chose, Adrien?
Je disais, c'est un peu comparable à Grenoble l'année dernière, qui avait bien commencé avec peu de moyens. Ils avaient recruté des anciens joueurs de Ligue 1 et puis ça avait bien marché. Après, ils avaient pu se maintenir assez facilement. Et si Grenoble prend les points dès le début du championnat, ils se maintiendront sans problème, on a vu. C'est un peu similaire à Grenoble, je trouve.
C'est exact, la situation est un peu similaire, comme tu veux. Voilà.
Faudrait essayer de les voir jouer une ou deux fois quand même Boulogne pour voir si c'est aussi béton que Grenoble l'an dernier, parce que ils avaient quand même fait fort l'année dernière Grenoble.
Oui, c'est vrai. Ils avaient, il me semble, dans les toutes premières journées de Ligue 1, ils étaient allés gagner au Parc.
Ouais.
On a dit de passer à la suite, Roméo.
Oui, non, mais oui. Donc voilà pour finir sur cette petite page. Boulogne-Auxerre, pardon. Donc on peut passer à l'autre match. À l'autre match, on déroule la file des matchs. C'est Lens-Rennes, les Ch'tis contre les Bretons. Rien pour plaire, mais pourtant, ce fut un assez beau match de partout. Tu peux nous en dire un peu plus, Adrien? Il me semble que donc t'as vu un peu du match. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah franchement, c'était un beau match. Les deux équipes sont bien livrées. Lens, ils peuvent faire une belle saison. Ils jouent pas mal. surtout Domi qui a été très très bon ce soir, je trouve. Une passe décisive, un but. Mais Rennes aurait pu enfoncer le coup dès le début du match. Asamoah, il foire 2-3 actions qui auraient pu mettre Rennes à l'abri dès le début. Et puis, bah, petit à petit, dès l'expulsion de Ramos en début de deuxième période, bah, Rennes a commencé à baisser de niveau de jeu.
Il y en a une de chaque côté, c'est ça, d'expulsion?
Oui, oui, oui. Mpila, oui. Mpila a été expulsé en fin de match, oui.
Dans la 70e.
Ah, le petit jeune, là, qu'on trouvait si bon, là, la semaine dernière, il a été expulsé.
Voilà.
Ouais. Donc, à 2-1, un partout, pardon, donc, t'as les deux équipes prennent un carton rouge. Gemma met un super but de la tête. Duchesse peut rien du tout. Et à 2 minutes avant le but de Rennes, Moné Paquet à la balle de match, il se foire complètement. Et donc 3 minutes plus tard, t'as le corner de Rennes, tête d'Asamoah qui permet au Rennes de faire le match nul. Mais franchement, c'était un bon match. Les deux équipes sont bien livrées et je pense que Lens va vraiment être intéressant à suivre cette année.
J'ai vu un peu le match. C'est vrai que Lens a été pas mal. Et comme tu dis, un peu étrangement, à la suite de la blessure de Ramos, joueur lensois, c'est à ce moment-là que Lens a mieux joué. C'est le Rennes aussi a moins bien joué. Assez étrange que ça puisse paraître. Aussi étrange que ça puisse paraître, excusez-moi. Donc, et ensuite, donc, Villa a été expulsé pour Rennes à la 70e. Et à noter le penalty lensois qui est, à mon avis, je sais pas si vous avez vu l'action, qui est assez sévère quand même. Oui, Arnaud.
Ouais, juste, est-ce que vous confirmez, vous deux qui avez vu le match, est-ce que vous confirmez un peu la pression qu'on avait de Rennes, qui est une des équipes apparemment les plus, enfin pas les plus techniques, mais on parle souvent du physique de Rennes, mais on parle pas souvent de leur qualité technique. Et Bangoura, je l'ai vu très bon, je l'ai vu là faire une passe, ils étaient un 2-2, là il a fait une passe à Gian, là qui s'est un peu raté sa reprise après. Bangoura très bon, Leroy toujours on le connaît, toujours les deux petits jeunes là au milieu, Mvila avant de se faire sortir, enfin moi je le trouve très très, enfin vraiment bien. Et puis Gian devant aussi, que j'avais connu un peu quand il était en Italie. Est-ce que vous me confirmez quand même qu'il y a du bon potentiel technique là-bas?
C'est vrai que Bangoura et Leroy ont vraiment pesé sur le jeu de Rennes, pardon, c'est indéniable. Mais parfois ils s'éclipsent, à certains moments on les voit plus du tout dans le match, et ça c'est un problème qu'il faudrait qu'ils arrivent assez vite. Parce que pendant genre 10 minutes, un quart d'heure, on va plus voir Bangoura et Leroy. Pendant ces moments-là, l'adversaire prend un peu le dessus. Et c'est dans ces moments-là qu'ils peuvent se prendre des buts. Donc, parfois, c'est un peu embêtant, je trouve, qui règle ces petits problèmes, je pense.
Bangoura et Asamoah Gyan, les qualifier de joueurs techniques, je ne serais pas forcément d'accord. C'est pas des brels techniquement, ça c'est sûr. Mais de là à dire qu'ils sont vraiment techniques, par exemple, comme des mecs comme Leroy ou Pagis, je suis pas d'accord. C'est surtout des mecs qui percutent beaucoup, qui sont très puissants. C'est pas juste des mecs qui courent vite, quoi. Ils ont un peu plus, mais technique, non, je trouve que c'est un peu trop, quoi.
Bangoura, Gian, tu les rapprocherais plus d'un saut que d'un...
Non, c'est pas ça, justement. C'est pour ça que j'ai bien précisé avant que c'est pas des mecs qui sont dénués techniques, parce que je me doutais bien qu'il y avait un débile qui allait tout de suite partir à l'extrême. Merci Arnaud. non, mais c'est bien que je rigole. Plus sérieusement, ce que je voulais dire, c'est que c'est plus des mecs qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne, mais pas, ils sont pas suffisamment techniques pour qu'on les qualifie d'abord comme des joueurs techniques, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un Mamadou Niang, par exemple, qui lui aussi joue beaucoup de sa puissance, beaucoup de sa vitesse, mais tu vois quand même que c'est un mec technique. Il est capable de faire de très très beaux gestes. Asamoah Gyan et Bangoura, alors peut-être que ça a été le cas pour eux ailleurs, même si bon, Asamoah Gyan, à part ses 6 premiers mois à l'Udinese, c'était pas terrible. Bangoura, pour le coup, je regarde pas trop l'Ukraine, donc ce serait vous mentir que vous dire ça, mais moi j'attends plus, quoi, de joueurs qu'on qualifie de technique. Moi je te dis tout de suite, entre un Leroy, Pagis et les deux autres, il y a aucune comparaison possible.
Oui, non, on est d'accord.
Donc c'est juste pour ça, par rapport à ça, c'est plus des joueurs complets qui ont un peu de tout, mais avec une bonne puissance athlétique. Et, c'est Rennes, quoi.
Et Rennes, c'est un bel outsider, oui, je pense, mais ils ont du mal à marquer, ils ont du mal à faire la différence. Ils ont énormément vendangé aujourd'hui.
À cause de Samoa.
Comment ?
À cause d'Asamoah surtout.
Hein, oui, oui, la... surtout Asamoah. Ils ont vraiment.
Ça n'a jamais été vraiment un attaquant de pointe, Asamoah. Normalement. Ouais, hein. Ludinese, comme on parlait tout à l'heure, Marvolo, il jouait pas en pointe. Hein, il jouait toujours derrière, enfin, avec quelqu'un, avec un autre, quoi. Et là, tu me confies, enfin, une fois de plus, Pagy, c'est pas rentré. Bah, il était peut-être pas sur la feuille de match, là. Je regarde.
C'est Marvo qui est rentré.
Ah, d'accord. Marvo qui est rentré
à la place de Sow, il me semble.
Ouais, non, Pagy, c'était pas sur la feuille de match, donc.
D'ailleurs, les frères Sow se sont croisés. Tandis que Moussa Sow est sorti pour Rennes, c'est Samba Sow qui est rentré pendant ce point.
Ah bah tiens, moi qui pensais que Moussa Sow avait la palme du prénom à la con, Samba Sow, c'est génial ça, Samba Sow.
Voilà. Et je pense que Arnaud, pour répondre à ta question, je suppose que Rennes, au retour de blessure de Briand, faudrait peut-être jouer Briand en pointe et peut-être Gann et Bangoura de chaque côté de la pointe. Je sais pas vraiment, mais.
Parce qu'en fait, Briand, il est censé être la toute finition de Rennes.
Ouais, Briand, ça a jamais été son point la finition.
Oui, je pense et je crois que Antonetti justement veut évoluer comme ça dans l'avenir. Et je, oui, Adrien.
Juste par rapport à Rennes en général, je trouvais, parce que on les a vus au premier match face à Boulogne, ils avaient été impressionnants. Bon, en face c'était Boulogne en même temps, ils avaient mis 3-0. Mais là, je trouve qu'ils marquent un peu le pas quand même. Ils font 3 matchs nuls de suite. On les a placés dès la première journée en tant que outsider, un des outsiders principaux de ce championnat. Mais je trouve qu'ils font 3 matchs nuls de suite. Ils en font un face à Marseille, un face à Lens et un face à Nice. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. On est placé assez haut, parce qu'ils avaient fait un bon match face à Boulogne. Moi, je trouve que petit à petit, ils baissent un peu de niveau de jeu, je trouve. Je sais pas ce que t'en prends, ce que vous en pensez, mais.
C'est sûr que là, ils commencent à perdre des points, et c'est dommage parce qu'ils avaient peut-être quelque chose, enfin, ils ont quelque chose pour faire un très très bon championnat. Et bon, ils perdent des points, alors que bon, je pense que des équipes comme ça, normalement, ça doit des fois aller chercher la victoire à l'extérieur. Ça doit aller chercher des points à l'extérieur, à domicile, plus de victoires, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu
décevant. Voilà.
Je serais pas aussi dur que vous, parce que faire match nul à Lens, c'est quand même pas, c'est pas une, comment on va dire ça, c'est pas une honte. Lens a quand même de bons joueurs, et puis match nul contre Marseille, même à domicile. Je suis désolé, c'est pas franchement le cas. Après, Nice-Rennes, là, pour le coup, j'ai absolument pas vu le match, donc je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais ils ont tout simplement pas eu un calendrier facile. La semaine prochaine, si pour le coup, ils trouvent le moyen de pas perdre, de pas gagner Saint-Etienne, et puis ensuite ils se déplacent à Grenoble, donc là, pour le coup, ils ont 2 matchs plus faciles. Là, ils doivent prendre 6 points parce que après ils se déplacent à Bordeaux. Donc. Moi, j'attends juste de voir comment ils vont gérer Saint-Etienne et Grenoble. Là, ils doivent vraiment prendre 6 points. S'ils prennent pas 6 points, là oui, effectivement, on peut penser que ils vont avoir un peu de retard, parce que moi je pense honnêtement que les Rennais, même s'ils aiment bien nous endormir avec leur stade et leur ambiance, ils vont vraiment essayer d'aller en Ligue des Champions cette année.
Vas-y. Excuse-moi.
C'est ce que je pensais à la base aussi, c'est que Rennes pouvait viser la 4e, 3e place. Mais bon, s'ils commencent à faire des matchs nuls à Lens, qui bon, d'accord, ok, Lens, c'est toujours très difficile d'aller gagner là-bas, ok, mais ça reste quand même un promu. Donc si tu vas pas gagner à Lens, tu vas pas gagner à Nancy, tu vas pas gagner à Lorient non plus, tu vas pas gagner à Le Mans, tu gagnes jamais à l'extérieur, et finalement tu vas arriver 6e, 7e, et voilà quoi.
Je suis pas d'accord du tout, mais pas du tout avec cette analyse, parce que il y a promu et promu, tu vois. Dire que Lens c'est un promu, oui d'accord, sur les faits c'est exactement ça, mais est-ce que Lens a un moins bon effectif que Le Mans, par exemple, dont tu parlais ?
Peut-être pas, mais bon, ils n'ont pas fait un recrutement. Ils ont fait un recrutement de promu aussi. Hein.
Oui, mais ils ont quand même de bons joueurs. C'est ça que je veux te dire. C'est que, au-delà du fait que ce soit un promu, et puis de toute façon, les promus en France, on sait très bien comment ça marche. Là, d'ailleurs, on les voit. Les 3 promus sont dans les 8 premiers. C'est toujours comme ça en début de saison. Les promus se baladent toujours jusqu'à un certain point. Donc, non, moi, je dis faire match nul à Lens 2-2. C'est absolument pas une honte, parce que Lens a de bons joueurs, franchement. Boukari, c'est Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont eu l'occasion de le voir jouer, mais il est franchement bon. Eduardo, pareil. Oui. Djema aussi. Donc, non, c'est Hermes. Peut-être.
Ouais, mais.
Hermes.
Oui,
c'est
oui.
C'est-à-dire Hermes. D'accord.
Oui, oui.
Ouais, non, c'est. ouais, je me doute. non, mais. Voilà, c'est. Moi, je pense que le seul faux pas, à la limite, c'est le match nul à Nice, parce qu'on voit que Nice n'est pas bon du tout cette année. Mais bon, moi, un match nul à Lens, pour moi, ce n'est pas un faux pas.
Mais dans le contexte du match, c'est un mauvais résultat, parce qu'ils ont le match en main, et petit à petit, ils ont laissé prendre Lens, prendre le jeu à leur compte. Et dans le déroulement du match, Rennes avait le match en main.
Mais enfin, Rennes marque à la 90e, alors.
Quand tu vois la première mi-temps, tu te dis qu'ils doivent en planter 3 en première mi-temps et que le match il est plié.
Le problème, c'est toujours comme ça, c'est toujours le fait de se dire, en fait, bah, comme dans tout sport, si tu es bon parce que l'autre est super nul, ou si toi tu es nul. En gros, c'est savoir quelle est la conséquence et quelle est la cause. Tu vois, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. On peut dire que Rennes a bien joué au début parce que Lens n'était pas dans le match. Une fois qu'ils sont rentrés dans le match, Rennes n'a pas pu suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours délicat de décider qui ça. Moi, ce que je vois, comme je te l'ai dit, j'ai pas vu le match, donc tu es plus à même de juger ça. Mais moi, je vois un but à la 90e de Hassan Diagne. Bah oui. Et puis de toute façon, les Rennais, je leur disais encore, c'est quand tu vois que leurs attaquants, par exemple, c'est Sow, Diagne, Bangoura et Briand. Bah, tu sais que te plaindre de la finition, c'est, à mon avis, si un Rennais aujourd'hui, un des dirigeants Rennais vient se plaindre de la finition, c'est qu'il est très mauvais à son boulot, parce que tu peux pas prendre ces trois-là et te plaindre ensuite que ça marque pas assez de buts. Il manque vraiment un vrai joueur. Ils ont pris le parti pris de prendre des gars bien costauds, bien rapides, mais ils savent bien que c'est pas des bêtes pour marquer, quoi.
En tout cas, Rennes devra gagner des matchs par la suite. C'est vrai. S'ils veulent arriver dans leurs ambitions.
Bah voilà pour le petit match Lens-Rennes qui s'est soldé sur un 2-2, on le rappelle, deux expulsions, Villa et Ramos du côté lensois. Donc voilà, on déroule, on passe à l'autre match de la soirée, Lorient-Le Mans. Alors, on a un Lorientais ici qui va pouvoir nous parler de Lorient qui a battu Le Mans 1-0 grâce à un superbe coup franc de Vairua.
Ouais, magnifique, hein. Alors ouais, j'ai vu le match. Alors ça faisait plaisir pour une fois un stade du Moustoir rempli. Il faut dire aussi avec les places à 1€ et à 2€ ce soir offertes par notre président, c'est la moindre des choses quand même. Et vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un bon petit match de Ligue 1, pas extraordinaire, mais une bonne équipe du Mans qui combine bien, qui joue bien, qui a été très dangereuse, et une équipe de Lorient plutôt réaliste avec des actions. Et la première mi-temps a plutôt été à l'avantage du Mans. Ça aurait pas été volé s'ils avaient marqué avec un très bon coup d'heure qui a apporté beaucoup de percussions à son équipe. Il avait dit cette semaine qu'il donnerait tout sur le terrain, même s'il n'avait pas pu signer à Monaco cette semaine. Et ben il l'a fait ce soir. Il a été vraiment le meilleur morceau sur le terrain. En seconde mi-temps, Le Mans reprend le rythme qu'ils avaient imposé en première mi-temps et domine largement. Et nous on a des contres. Et grâce à un très très bon Diarra qui vient de Tours et qui a été très percutant, on arrive à se procurer un très bon coup franc pour Vairea. Et là, Vairea qui marque un coup franc magnifique. Comme il sait si bien le faire, et il le fait, ça m'a fait super plaisir en faisant trois coups de pagaie. C'était vraiment bien, le stade qui est en harmonie et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça au Moustoir. Et puis sinon après on a su gérer. Et puis après très surprenant quand même l'expulsion de Christian Gourcuff. J'ai pas souvenir qu'il se soit fait expulser. Ça fait très longtemps en tout cas.
Oui, justement. Ça date de la Ligue 2, je crois. Sa réaction par rapport à il s'est dit très énervé par rapport à l'arbitre.
C'est quelqu'un de très calme, tu me confirmes ça, Aurélien?
Oui, c'est quelqu'un de très calme. Moi, je crois que la fois qu'il s'est énervé, hein, je suis pas sûr, mais c'est quand l'année on a failli descendre en Ligue 2, ou je crois que c'était, je suis pas sûr, face à Istres, où il y avait eu un penalty contre nous, qui n'y avait pas, et du coup, ça nous condamnait à la descente quand on était dans les regards cette journée-là, et du coup, c'était énervé, mais depuis plus rien, quoi. C'est vraiment quelqu'un de calme sur le banc, quoi. Ça m'a vraiment surpris qu'il soit comme ça.
Et puis des deux recrues brésiliennes, Argentine, Sosa.
Sosa, la révélation de ce soir, franchement, je crois que je pensais qu'on allait avoir du mal à oublier Jallet. Bah pour moi, ce soir, bon, sur un match, on peut pas juger, hein, il va falloir des matchs et tout, mais ce soir, Sosa, il m'a fait oublier Jallet. Je veux dire, c'est 100 fois meilleur que Bacca, parce que ce soir, avec lui, on évite 3-4 buts. Hein. Je veux dire, il est lent, mais il a fait des tacles, c'était très, très, du très haut niveau, quoi.
Et Peñalba.
Je pense qu'il prenait, il va falloir suivre.
Gabriel.
Il est rentré à la fin, il a pas montré grand chose. Hein. Je pense qu'il va falloir du temps avant de le voir. Mais par contre, pour les Girondins, très bon Ducasse, je trouve. Il méritait, ouais. Moi, j'ai bien aimé.
Comment Ducasse?
Très bon Ducasse ce soir.
Ah, d'accord. Ok. Ouais. Oui, ah bah. Ok. Et Gamero, il s'en est bien sorti. Ah,
comme d'habitude, percutant devant, inquiétant les Manceaux. Je pense que si on n'avait pas Gamero devant, les Manceaux auraient pas eu de difficulté à nous battre. Je pense qu'on les a, Gamero les a beaucoup inquiétés, ce qui a fait qu'ils n'ont pas été beaucoup vers l'avant. Et donc, on a pu avoir des contres et récupérer le ballon. Ce qui, sinon, sans lui, Gamero, de toute façon, il est toujours bon. Hein, je veux dire, il n'y a même pas besoin de parler. C'est vraiment celui qui donne le plus sur le terrain à chaque fois. Ouais.
Et je vais. Vas-y, Habib, et après, je lui
donne la. Je veux savoir à combien ils l'ont pris, Sosa.
1,2 million.
Tiens, du tout, franchement, c'est vraiment pas cher parce que.
Tu l'as vu jouer?
Ouais, bah, je l'ai vu jouer quand il jouait à Racing. Argentine. Bon, alors c'est pas le meilleur joueur du monde, ça, soyons clairs, mais c'est franchement pas trop mal, quoi. Je pense que déjà je l'avais vu jouer une fois ou deux à Gimnasia quand il jouait en D2. C'était bon, je t'avoue que c'est un gros bourrin, hein. Franchement, c'est un gros bourrin, mais déjà en Ligue 1 ça va bien, hein, d'être un gros bourrin, surtout quand tu joues derrière.
Ouais, c'est vrai.
Mais je voulais savoir à quel poste ils le font jouer en fait.
Ah, il y a arrière droit, mais ce que j'ai lu moi, c'est qu'il avait joué presque à tous les postes jusqu'à 10.
C'est,
quoi. Ça,
c'est parce que j'aime toujours savoir un peu le problème des joueurs, enfin le problème ou l'avantage des joueurs argentins, c'est que tant qu'ils jouent en Argentine, ils jouent toujours à 30 postes. Et puis là, c'est pareil, ils jouaient surtout latéral droit, mais je l'ai vu jouer à gauche, dans l'axe, un peu à la récupération. Bon voilà, moi tout ça pour dire que si vous l'avez pris 1,2 million, c'est franchement pas mal parce qu'il me semble qu'il a joué quasiment tous les matchs, hein, quand il jouait au Racing.
Ouais, c'est ce que j'ai lu, et il était même capitaine, il me semble aussi. J'ai cru avoir lu ça, non?
Je peux pas te dire, mais moi je sais qu'il était, ça fait 2 ans qu'il a joué, 2 ans plus tôt, puis il a quasiment joué tous les matchs, donc c'est pas trop mal, quoi. C'est pas une mauvaise imitation de Krupo Viesa, quoi.
Ouais. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé ce soir avec Sosa, c'est que il se donnait à chaque ballon. Je veux dire, il se faisait dribbler par exemple par le Talek ou Lama, et chaque fois il revenait et il venait se combattre, quoi. Alors que Baka par exemple, il se faisait passer par exemple la semaine dernière face à Monaco, et après il revenait pas au combat, quoi. Alors que toujours au combat, c'est vraiment la mentalité qu'on aime.
La
qu'on a même avec à Lorient. Ouais, la Grinta.
Si tu veux, ça te surprend pas trop, mais pas dans tous les pays d'Amérique du Sud, au Brésil un petit peu moins. Mais en Argentine, en Uruguay, au Chili plutôt, tout ça, à défaut d'être mauvais, on va toujours te demander d'avoir de l'engagement comme ça, parce que ça arrive à tout le monde de pas être dans son assiette un match, mais au moins tu vois, tu mouilles le maillot, n'importe quoi. Tu vois, ça te sert d'une sorte de caution, quoi, si tu veux. Et bah, tu vois, ça me surprend pas trop. Et pour Peñalba, c'était l'autre question. En fait, il joue à quel poste là pour
Bah pour l'instant, on le fait jouer à la place. La semaine dernière, il a joué titulaire face à Monaco, il jouait au même poste qu'Abrial, exactement. Et ce soir, il a remplacé Ducasse, et il joue au même poste encore.
Milieu, hein. Et plutôt côté droit, quoi. Axe droit, on va dire.
Ouais, milieu côté droit, ouais. Axe, ouais, tout à fait.
D'accord.
Et pour revenir Gourcuff a dit qu'il a recruté Argentin parce que les Argentins avaient aucun mal à s'habituer à la Ligue 1. Je pense que quand on voit cette année Lisandro et Sosa, je crois qu'il a raison, hein, parce que.
Et d'ailleurs, Gourcuff a déclaré qu'il était très content de son match, du match de Sosa. Et je vous disais tout à l'heure que Gourcuff était très énervé par l'arbitre. Enfin, il a déclaré. J'ai vu des tirages de maillot sur Kevin Gamero, il y avait constamment faute, et quand on se permet de signaler une mauvaise touche qui n'est pas au bon endroit, c'est de la mauvaise foi, a-t-il estimé. Sous prétexte qu'il ne faut pas critiquer les arbitres, il ne faut pas non plus se taire devant ce genre de choses. Ensuite, il y a une suffisance dans le comportement qui m'horripile. Après, chacun peut faire son jugement, mais je me suis fait le mien, en tout cas. Voilà. Donc, cri-cri assez énervé ce soir.
Ouais, surprenant, c'est vraiment. J'ai pas de souvenir. Ouais, du tout, non.
Qui était l'arbitre? C'était Chaperon ou quoi?
Monsieur Coué. Monsieur Coué.
Bruno Coué.
Bruno Coué, c'est
mauvais Coué d'habitude.
C'est celui qui. Bah, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait fait. Mais à mon avis, je pense qu'il y avait beaucoup de pression parce qu'à la fin, c'était vraiment stressant avec les Manceaux qui attaquaient et. On avait vraiment envie de gagner, quoi. Ça sentait ce soir, il y avait une ambiance et tout, comme jamais il y a eu au Moustoir, et à mon avis, on aurait fait match nul, ça aurait été la grande déception.
Parce que franchement, les arbitres, on est habitué à voir des gros cons façon Tony Chaperon, Hervé Piccirillo, tout ça, c'est les footeurs de merde. Ouais. Ou Duhamel aussi, mais Bruno Coué, généralement, il est toujours bien.
Oui.
Voilà, bon, c'est bizarre.
Ouais, surtout que moi, j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait. Bien sûr, il y a eu 2-3 trucs, mais ça, c'est à tous les matchs, quoi. C'était pas non plus extraordinaire au niveau des erreurs d'arbitrage. Donc,
voilà. Donc voilà, pour merci Aurélien. Pour ce,
vous en prie.
T'as bien parlé de Lorient. Merci beaucoup. Donc beau match merci de Sosa, la nouvelle recrue de Lorient, à noter la victoire lorientaise 1-0 grâce à un but de Verrua. On le resignale. On peut passer à l'autre match. On continue. C'est Nice Montpellier. Donc Nice Montpellier victoire 3-0. 3-0 des Montpellierains à Nice, et les Montpellierains se classent en seconde position du championnat maintenant. Il me semble en plus que le match a été interrompu à cause de jets de pétards.
Exact.
Voilà. Donc, je te laisse parler de ce match, Yann, puisque tu l'as vu en intégralité.
Voilà. Bon, déjà, à la base, Nice a proposé un système de jeu en 4-4-2 avec 4 joueurs très offensifs. C'est-à-dire qu'il y avait Moulungi, Traoré, Loïc Rémy et Bamogo titulaires. Face à ça, il y avait Montpellier qui évoluait en 4-5-1 en phase défensive et qui pouvait devenir un 4-3-3 en phase de possession. Et ben justement, Montpellier, dans la première mi-temps, elle a eu cette possession de balle. Elle a cherché vraiment le jeu vers l'avant, passe courte, de la mobilité. Et avec le milieu de terrain qu'ils ont, Montpellier, parce qu'ils ont un milieu de terrain très technique, avec Costa, l'Argentin, Bellawan, Marvo... Et Dernis, ils ont vraiment fait la différence. On va dire même que Montpellier, ils ont joué comme s'ils étaient à domicile. Quand ils ont joué là tout à l'heure, ils ont vraiment joué comme s'ils étaient à domicile, c'est-à-dire qu'ils allaient presser dans le camp niçois. Quand ils avaient le ballon, ils prenaient leur temps. Ils avaient vraiment confiance en eux. Et voilà quoi, on avait vraiment l'impression qu'ils jouaient à domicile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont ouvert le score très rapidement sur une passe de Costa. Et c'est vrai que côté niçois, on a vu que c'était vraiment très fébrile, surtout le côté gauche de la défense, qui était avec l'ex-bordelais Sid et l'ex-parisien Mabiala. D'ailleurs, Mabiala s'est fait sortir à la mi-temps. Écoutez, il y a 2 buts sur 3 qui viennent de ce côté-là. Donc vraiment une défense très fébrile. Et en plus de ça, quant à Moulungi qui est milieu gauche et Bamogo qui est milieu droit... Bah, ils font pas les efforts défensifs, et ça on l'a vu tout de suite, Nice était vraiment dépassé défensivement. Donc Nice après ensuite, au bout de 2-0, bah, ils ont essayé de remettre un coup de pression, mais ils jouaient beaucoup dans l'axe, avec l'entrée en jeu de Ben Saada en deuxième mi-temps, ils ont vraiment essayé de jouer beaucoup dans l'axe, mais vu que Montpellier était bien organisé, en fait ils ont rien pu faire dans l'axe. Sur les côtés c'est vraiment faible, côté niçois, en tout cas aujourd'hui c'était vraiment faible. Et voilà, j'ai vu une équipe montpelliéraine vraiment très solidaire et impressionnante dans le jeu. Franchement, ils ont vraiment cherché à jouer et ça jouait bien. Et puis bon, il y a le joueur de Montpellier qui m'a impressionné, c'est Costa. J'en avais entendu parler et puis bon, là, il a fait vraiment un très très gros match.
D'accord.
Voilà. Pour Mabiala, est-ce que c'est une surprise? Non, franchement. Quand tu vois son match contre Bordeaux la semaine dernière... C'est un vrai boucher, quoi. Mais un vrai boucher. Franchement, tu le vois, tu te dis, lui, il est argentin, non? Parce que j'en ai vu des gros cons sur un terrain. J'en ai vu des vrais gros cons, des têtes de nœuds. Mais lui, c'est le champion du monde. Alors, je sais pas s'il a encore fait ses attentats comme la semaine dernière. Mais la semaine dernière, dès que Bordeaux a mis le troisième, il s'est dit, bon, maintenant j'ai perdu, je vais essayer d'entuber Gourcuff, hein, pour rester poli. Et il a passé plus de temps à terre que sur le terrain. Il est horrible ce jour-là. Et puis juste par rapport à la semaine dernière, Ole Nicole.
Ouais, c'est vrai que j'avais dit
non, je vais t'emmerder à chaque fois que Nice va perdre.
Ah, c'est vrai que j'avais dit qu'Ole Nicole allait apporter quelque chose tactiquement, et c'est vrai que aujourd'hui j'ai été très surpris de ce qu'il a mis en place avec là il n'y a pas de cohérence tactique là. Franchement, c'est tout l'inverse de ce que j'avais dit la semaine dernière. J'avoue complètement, là c'est très décevant là. Et en revenant sur Mabiala, non, là il a pas fait d'attentat, mais par contre il a fait une bourde sur le premier but en ratant un contrôle qui donne le but à Dernis. Et puis sur le placement, il est mauvais, il anticipe mal, en tout cas voilà quoi. À mon avis, il va pas faire beaucoup d'apparitions côté Nice, ouais, je pense. Hein.
Pauvre Nicolas, en plus de porter un nom ridicule, eh ben il a du mal avec Nice, donc c'est oui Hugo. Aurélien, qu'est-ce que c'est? Rien.
Non.
J'entends des voix, c'est pas grave. Donc, voilà pour ce. Donc, et tu peux nous parler un peu plus du match, enfin, de l'interruption.
Excuse-moi. En fait, en première mi-temps, pendant les 30 premières minutes, les supporters montpelliérains ont jeté des bombes artisanales ou agricoles, là, je sais pas vraiment comment on appelle ça. Donc, ça a explosé pendant le match, pendant le cours du jeu. Bon, ça, ils visaient pas les joueurs, hein, heureusement, mais. Pendant le match, ça a explosé. C'était assez impressionnant, le bruit, et voilà. Donc, il y a eu deux bombes comme ça qui ont explosé. Donc, Duhamel, l'arbitre, va voir le banc de touche et dit tout de suite, s'il y en a une troisième qui explose, moi, j'arrête le match. Et ben, en deuxième mi-temps, les supporters montpelliérains, bien que leur équipe menait 2-0, font péter une troisième bombe sur le terrain. Et donc arrêt du match pendant 20 minutes et s'il y en aurait eu une quatrième, Duhamel a dit qu'il arrêtait définitivement le match. Donc Montpellier a failli perdre le match ou en tout cas fait perdre cet avantage sur tapis vert, quoi, grâce à leurs supporters, on va dire. Donc voilà, c'est passé.
D'accord, c'est assez con.
Ouais, c'est très con. D'ailleurs Nicolas a réagi après le match.
Oui, il était assez énervé. Enfin ça. Ça peut se comprendre. Et donc voilà, victoire de Montpellier, 3 buts à 0, seconde position pour les Montpellier. Hein. On déroule le classement, enfin on déroule la liste des matchs, excusez-moi. Non, pardon, vas-y Abib, tu voulais parler des
Nicolas. Au moins avec les Nicolas là, on va jouer. Petit Roméo avec ton écho de PD. Mais je disais au moins avec les Nicolas, on va rigoler, hein, parce que... Si ça se passe comme en Ligue 2 l'an passé, ça va être marrant.
Oui. Non, ouais, excusez-moi.
Non, mais c'est une sorte... Nicolas, c'est une sorte de version du pauvre d'Antonetti, quoi. Au moins, Antonetti a un minimum de... Quand tu sens qu'il y a un minimum d'intelligence qui lui traverse les yeux quand il parle, alors que Loulou Nicolas... Alors, je te parle même pas de son fils, là. Hein, qui est devenu célèbre avec son célèbre texto envoyé à son ami, on va les enculer, c'est peut-être ni moi. Très très fin tout ça, hein. Très très fin.
Voilà pour ce petit couplet sur les Nicolas. Et on peut pas. Il me semble que personne n'a vu le match Saint-Étienne-Grenoble, mais donc brièvement, donc Saint-Étienne a battu les Grenoblois 1-0 et ça leur permet donc d'empocher leurs trois premiers points de l'année. Donc après la défaite contre Nice, la défaite à Toulouse, la défaite à domicile contre Boulogne. Et donc Aurélien, pardon, tu voulais dire un petit truc sur Grenoble.
Oui, je voulais dire un petit mot sur Grenoble. Ouais. J'ai pas vu leur match, mais au début de la saison, en regardant l'effectif, je trouvais vraiment qu'ils avaient un effectif un des plus faibles de Ligue 1, et je trouve que ça se confirme, quoi. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment descendre et finir lanterne rouge et cette saison, quoi. Je sais pas vous, mais
oui.
Toi, tu veux pas du football spectacle?
Non.
Grenoble, ils ont marqué combien de buts l'an passé? 25, 26?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Zéro cette année pour l'instant, nous dit Flo.
Boya, il en a mis deux.
Comment?
Boya, il en a mis deux cette année.
Ah bon?
Ouais.
Merci Florent pour cette statistique erronée. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Grenoble a mis deux buts cette année. Et donc, Bazdarevic aussi. Bon, c'était la soirée. Il s'est dit mécontent des arbitres. Voilà. Donc c'est Landrin qui a marqué contre pour Saint-Étienne contre Grenoble. Rien à dire plus particulièrement par rapport à ce match. On peut passer à l'autre match qui va intéresser nos deux monégasques, Sochaux Monaco, et la victoire monégasque grâce à un penalty de Vaclav Zverkos. Monaco qui chute en pays Peugeot. Voilà, Hugo, je te laisse sur ce match.
Bah, que dire, mis à part que Monaco confirme ce qu'on pensait d'eux, c'est une équipe très irrégulière qui est capable du meilleur, et bah, surtout du pire. Voilà, quand, surtout.
Du meilleur, alors faudrait que tu me dises quand c'est le meilleur, hein, parce que moi, le meilleur,
je crois. Contre Toulouse.
Toulouse, c'était le meilleur. Ah, oh, bah oui, oh, bah, on n'a pas dû voir le même match.
Nimani, il voulait dire Nimani, mais il s'est trompé.
Non, mais contre Toulouse, c'était un bon match. Je suis désolé, le match contre Toulouse, c'était une équipe qui était capable de faire des bonnes choses. Là, ce soir, on a vu une équipe qui est incapable de, d'enchaîner trois passes. Ben, voilà, quoi, c'est...
Parce que je suis désolé, quand, quand on joue contre Lorient la semaine dernière et qu'on gagne 2-0, déjà, le score est lourd, moi, je trouve, premièrement, parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas touché un ballon. Et Aurélien ne me contredira pas. Et en plus, Lorient était vraiment en dessous de son niveau, enfin, du niveau que je leur pensais. D'ailleurs, ils ont montré ce soir, ils m'ont fait mentir ce soir en gagnant. Et on a vraiment pas fait un bon match sur cette victoire-là. Après, alors sur la victoire à Toulouse, enfin pardon, face à Toulouse à domicile lors de la première journée, bon, peut-être que le match était pas pas excessivement mauvais de la part des Monégasques, mais bon, moi sur les trois rencontres qui ont suivi,
c'était un bon match. Là, t'avais de l'animation offensive, t'avais des choses qui se passaient devant, ça combinait bien. Mais là, t'as rien depuis depuis le match de Nancy, c'est voilà, c'est une catastrophe, quoi. Mis à part contre l'Orient, où on a joué une équipe qui était relativement faible. C'est pour ça qu'il faut pas prendre trop cette victoire au sérieux. Mais sinon, devant, ça ne va plus, quoi.
De toute façon, Monaco, en fait, c'est quoi? C'est 30 joueurs. Il y a 30 joueurs à Monaco. Je regardais tout à l'heure le groupe de Monaco pour le match, là, face à Sochaux. Et je voyais tous les absents, tous les choix de l'entraîneur, de tous les joueurs qu'il doit mettre sur le côté. Donc sur le côté, il a mis Pino, Mangani, Gakpé, Muller, Simic, Leko, Bulo, Dufo, Molo qui est blessé, Modesto qui est pas là, Zola, Aruna. Donc si en plus de ça, tu rajoutes les 18 qui étaient au match, il y a un effectif de 30 joueurs. Tu peux pas faire du travail sérieux avec 30 joueurs à l'entraînement, c'est pas possible.
À côté de ça, t'en as plein qui sont dans le centre de formation, de la réserve et je sais pas ce qu'ils font forcément dans l'équipe.
Oui, non, mais il a pas tout à fait tort là, parce que là encore, il y a pas une limite bien précise entre le groupe Pourreau et le groupe du centre de formation, parce que à Monaco, je suis désolé, mais c'est bien beau de vouloir faire jouer des séries de jeunes à tire-larigot, mais excuse-moi, les Bakar, on a vu ce que ça a donné ce soir, il est sorti au bout de 30 minutes de jeu, les Nimani, j'en parle pas. Tu vas faire jouer un gars comme Molo la saison dernière où il fera un bon match sur deux parce que une fois sur deux il se prendra pour Cristiano Ronaldo et il oubliera son cerveau dans le vestiaire. Tu vas faire jouer, je sais pas, j'ai plein d'exemples. Alors je suis désolé moi, mais les jeunes de Monaco, j'aimerais bien quand même les laisser un peu à l'écart et faire jouer des joueurs d'expérience qui savent ce qu'ils veulent. Enfin, bien que ce soir, un mec comme Alonso, je l'ai vu transparent alors que d'habitude il est assez bon. Mais bon, au moins, je trouve que c'est un peu plus une valeur sûre qu'un joueur qui sort du centre de formation. Donc pour moi déjà, c'est bien beau de vouloir miser sur les jeunes, mais on en fait peut-être un petit peu trop avec ceux de Monaco. Enfin, c'est mon avis.
De toute façon, pour Bakar, qu'on croit qu'il est mauvais, le prochain match, il fait un bon match, après, il retombe dans... Il fait un match de merde, mais je suis d'accord dans l'ensemble. Par exemple, quand tu vois que t'as Sagbo dans la feuille de match, tu te demandes qu'est-ce que fait ce joueur-là. Ce joueur, il a... Dans l'avant-saison, il a pas marqué un but. En match amical, il a pas marqué un but. En Ligue 1, il a pas marqué un but. Et avec la réserve, il marque pas beaucoup. Alors que pourtant, c'est un buteur. Ce genre de joueur, on devrait les prêter, tout comme les Bagar, les Gakpé, tous les jeunes du centre de formation qui ont peut-être un potentiel.
Moi, j'aimerais savoir, côté Sochalien, ce que vaut mon petit chouchou, le Charlie Davis.
Comment ?
Je voulais savoir ce que vaut Charlie Davis. Parce que moi, j'ai, à part quelques matchs, à part la Coupe des Confédérations, un peu comme tout le monde, et malheureusement, des vidéos YouTube, je le connais pas trop. Sur ce que j'ai vu, ce qui reste assez maigre, moi je pense qu'il peut faire une super saison et que ça va être une des révélations de cette année.
Et ben moi je t'annonce, t'as tout à fait raison. Voilà, tout simplement, je l'ai vu ce soir, j'ai été épaté par ce joueur. Alors c'est un petit gabarit, on se comprend, c'est pas vraiment un joueur très costaud quand on voit par exemple, je compare avec Nimani, mais ce gars est super intelligent, il a des déplacements toujours bien pensés, il a une couverture de balle hallucinante. Tout à l'heure, je voyais là pendant le match de l'Inter la couverture de balle de Eto'o où j'étais impressionné et je me rappelais celle de deux heures avant de l'Américain, et ben c'est pas exactement pareil, mais il a exactement cette capacité à couvrir le ballon devant alors qu'il a un petit gabarit. Vous voyez quand même la corpulence de Puy-Grenier. Presque jamais Puy-Grenier arrive à lui prendre un ballon au dos au but. Alors Puy-Grenier, j'en dirais un commentaire tout à l'heure, parce que moi qui trouvais que ça pouvait être la meilleure recrue monégasque à cet été, je me suis bien trompé. Et ben oui, c'est vrai que lui, cet attaquant socialien avec Zverkos, il forme vraiment un super duo. Et d'ailleurs, faudrait peut-être dire deux mots parce qu'il mérite sûrement plus que les Monégasques ce soir qu'on en parle. Les socialiens qui ont produit un jeu, ça fait très longtemps en Ligue 1 que je n'ai pas vu un jeu comme ça. J'ai été bluffé par la qualité de passe. Ils enchaînaient, ils faisaient des combinaisons. Au milieu de terrain, au moins, ils avaient des joueurs qui savent. Bon, même Dalmat, si c'est pas ma tasse de thé, c'est un mec qui sait quand même, enfin, qui a du ballon, comme on dit. Il sait faire, il a 2-3 coups d'éclat. À côté, il a un petit Marvin Martin qui est super bien. Vraiment, qui sait, au moins c'est un vrai 8, quoi, qui sait apporter le ballon devant, il sait au moins faire 20 mètres en avançant avec le ballon, pas comme tous les numéros 6 qu'on a à Monaco, les Perez, les Leco, les Eduardo Costa, qui à part tacler au niveau du genou ne savent faire que dalle, mais que
à
dalle.
À la côté, c'est métier, tu vois, c'est leur poste, on leur demande pas d'envoyer de faire des passes et tout. Eux, c'est la récupération.
Ben, si, j'aimerais bien, tu vois, des mecs comme Assochaux, comme le petit Martin, il faisait tout. Il a récupéré plusieurs fois le ballon dans les pieds de Park, et il allait, et on le voyait frapper. Il a fait 2-3 bonnes frappes. Bon, une fois, il en a peut-être cadré qu'une sur les trois, mais, enfin, pour moi, ça, c'est des vrais bons milieux de terrain. Et pareil sur les côtés. J'ai découvert, là, le numéro 10, la Boutbouze, je connaissais pas du tout. Mais pour en revenir, effectivement, à l'américain, c'est une très très bonne révélation, et Marvolo, je pense que t'auras un bon, enfin, t'as eu le flair, comme on dit, parce qu'effectivement, ça pourrait être vraiment un super, super attaquant. Moi, j'ai été impressionné par lui.
Voilà. Bah, d'après Richard, il est aussi bon que Erding. Enfin, il a dit que c'est vraiment le même profil et il est vraiment bon comme joueur.
Ouais, si, c'est vraiment plus que c'est le même profil. C'est un peu, enfin, il est pas excessivement grand comme Erding, mais il sait très, très bien couvrir son ballon. Il est très rapide. Il a tracé à un moment Adriano sur le côté, là, impressionnant. Enfin, moi, j'ai été vraiment, vraiment... Ouais, si, en plus, il est assez costaud, ses notes. C'est vraiment un joueur à surveiller, effectivement, Marvolo, et t'as bien fait de me poser la question pour qu'on en dise deux mots. Voilà.
Il faut quand même préciser que Sochaux, ça fait leur deuxième bon attaquant qu'ils recrutent en deux mercato, alors que, bon, certains clubs, ils en recrutent pas, comme Monaco. Certains clubs recrutent du Saint-Massa et d'autres recrutent du Casman. Donc, faut souligner le bon travail de la cellule de recrutement. Ouais,
c'est vrai. Et pourtant, ouais, Zverkos, on en a...
Gonzalez, hein.
Et oui, évidemment, mais... C'est vrai. Mais bon, comme on disait, effectivement, quand on parlait de Zverkos, je me rappelle, quand on parlait de ses bons débuts, là, en mars, il me semble, ici même, sur Génération Soccer, on disait que c'était quand même un joueur qui avait fait l'Euro, enfin, qui avait fait quelques minutes pendant l'Euro avec la République tchèque. Donc, c'est quand même des joueurs pas totalement inconnus. Alors, c'est hallucinant que des clubs comme Sochaux ne se soient pas fait griller la politesse par des Paris, des Marseille, au lieu de recruter des Brandao, etc., quoi. Et Zverkos, ça a encore prouvé ce soir qu'il était bon. Bon, il marquait un penalty. Mais même, dans le jeu, il est intéressant. Ils ont un peu le même profil, lui et l'américain. Et, enfin, moi, je suis vraiment épaté par ce duo d'attaquants et même par toute l'équipe. Ils m'ont vraiment, vraiment bien impressionné et je leur tire mon chapeau parce que Gillot, je pense pas qu'il pouvait faire jouer ses hommes d'une manière aussi précise et d'une manière aussi agréable à regarder, vraiment.
Et défensivement, qu'est-ce que ça donne, ce show? Quand on voit Jacques Paty, Perkis...
Bah justement, Perkis, on aurait pu rigoler, je me rappelle quand il était à Saint-Etienne, ça formait une sacrée duo avec Tavlaridis, je peux vous dire que c'était impressionnant. Pareil pour, effectivement, Fatih, et ben finalement ça a bien tenu, à part une ou deux fois où ils ont été mis en difficulté, je sais, au début du match, Park est parti à la limite du hors-jeu lors d'un face-à-face, parce qu'ils avaient vite joué un coup franc, mais enfin, Monaco s'est vraiment créé très très peu d'occasions, à part peut-être sur un ou deux coups de pied arrêtés encore. Donc ça a vraiment bien tenu même en défense, mais bon, je noterai pas la qualité de la défense parce que l'attaque de Monaco était tellement médiocre que je préfère vanter les mérites quand même du jeu offensif plus que de leur qualité défensive parce qu'ils ont pas été mis à trop à l'épreuve, je trouve. Hugo.
Bah pour l'attaque, c'est aussi dû au fait qu'on jouait avec Eduardo Costa et Diego Perez en même temps, puisque bon, ces joueurs-là, c'est plus des bouchers que des relayeurs. Et ça handicape sérieusement l'équipe, hein, parce que bon, jouer avec deux bouchers, ça n'avance à rien, ça coupe.
Bah, surtout qu'il y a, ouais, ça coupe le jeu, quoi, comme exactement, parce que t'as Néné et Alonso sur les côtés, il y a plus rien là, et puis il y a Eduardo Costa, et puis après la défense qui est obligée de balancer des longs ballons devant, quoi. Ça coupe totalement le jeu, des gars comme ça. Il y en a pas un pour faire le liant, quoi.
Et puis en plus, la venue d'Eduardo Costa, je vois pas, elle sert à quoi? Parce qu'après, on a quand même Gosso qui derrière, qui va revenir, qui est pas mauvais, qui a une bonne qualité de passe. Diego Pérez, si c'est pour couper les jambes, à mon avis, il est largement suffisant. Et puis la venue d'un relayeur, je vois pas en quoi Eduardo Costa était utile à la...
Il fallait bien mieux un coutadeur, on est d'accord.
Et mais après, bon. Pour la défense, je comprends pas pourquoi Lacombe met pas une couloue à la place de Mungu.
Oh bah, et ce soir, c'est pas Mungu le pire. Ce soir, c'est plus Grenier. Ah, il était en dessous de tout ce soir. Il provoque un penalty. Il se fait passer sur un face-à-face que Boudbouze met sur la barre transversale. Deux, trois fois, il est à la limite de se prendre un carton jaune qui vire au rouge parce qu'il fait des fautes très très limites. Il s'est fait dépasser en vitesse par l'Américain, on l'a dit souvent. Pour moi, c'est largement Puy-Grenier qui doit sortir si on juge ce match-là. Moi, même à Nancy, il avait pas été super. Bon, à Nancy, c'était toute la défense, donc je peux pas trop l'incriminer, mais je le pensais quand même un peu supérieur au niveau que je le vois depuis le début de saison. Quoi. Je suis un petit peu déçu par Puy-Grenier.
Bah, j'ai pas trop vu le match, mais Puy-Grenier, bah, elle est contre Toulouse, c'était solide, mais après.
Ouais, voilà.
Moi, je trouvais, j'avais vu un match amical de Monaco et je trouvais que la défense était un peu lente côté monégasque. Je sais pas si tu peux me confirmer ou pas.
Ouais, si, c'est vrai, ça c'est vrai, mais c'est pour ça que l'idée de Hugo de mettre Nkoulou en défense, c'est bien parce que Nkoulou est quand même rapide et puis assez à l'aise avec le ballon. C'est plus le genre de défenseur un peu moderne, comme on appelle ça, qui savent un peu se débrouiller avec la balle, un peu à la Lucio, les gars comme ça. Et je pensais que oui, effectivement, c'est peut-être plus judicieux de mettre un gars un peu rapide à côté de Puy-Grenier, voilà.
D'autant plus
que c'est pas tout, mais bon, on a assez de parler de Monaco là.
Un petit peu de Pinot, non?
Alors vas-y, finis sur Pinot.
Bah, Pinot, il a eu une embrouille à Nancy avec des supporters. À ce qui paraît, bah, il leur a fait un doigt d'honneur et ça n'a pas plu aux supporters. Donc après, ils ont été, entre parenthèses, réglé leur compte à la sortie du stade. Donc on ne sait pas si c'est la raison pour laquelle Pinot a été écarté du groupe, puisque bon, il n'était pas sélectionné sur la feuille de match par Lacombe, ou tout simplement si Pinot est en instance de départ, sachant que l'Inter de Milan serait intéressé depuis le match. Mais ça, j'en doute très fort, mais à voir.
J'en doute aussi.
D'accord.
Bon, enfin, faut pas oublier un truc, c'est que c'est en France qu'on recrute parce qu'on a flashé sur un joueur. L'Inter, ils l'ont observé, mais ils vont l'observer au moins 30 fois avant de se décider à le prendre. Et c'est justement pour ça que l'Inter, quand ils viennent piocher à Monaco, ils vont prendre Maicon et pas Pinot, quoi.
Bah, Pinot, il a dit, si tu fais une bonne saison, il y a une grande chance que je vienne te chercher.
Ben voilà, c'est ce que je disais. Donc, ils vont bien l'observer toute la saison. Ils vont le voir une vingtaine, une trentaine de fois avant de se décider. Donc, si Pinot est, j'espère pour lui qu'il n'est pas assez con, quoi, pour penser que dès maintenant l'Inter le veut. Donc, le mieux, c'est qu'il arrête de faire le crétin et qu'il se mette enfin à exploiter son potentiel parce qu'il a les moyens d'aller assez haut, quoi.
Bon, oui. Surtout techniquement et au niveau de la finition, c'est vraiment.
Voilà, enfin, voilà, merci pour ce petit passage sur Monaco.
Et la prochaine venue de Johnson,
Hugo. Peut-être. Oui, c'est annoncé. T'en sais un peu plus, Arnaud?
Bon, non, parce que de toute façon, les rumeurs comme ça, je pense qu'on en a assez vu, Totti à l'OM,
etc. Non, c'est pas une rumeur, hein. Pour le coup, c'est pas une rumeur.
Non, s'il y a des...
Ah, en Espagne aussi, t'en as...
Ah non, c'est même pas, c'est pas du tout une rumeur. Comme la Super Coupe d'Europe s'est jouée à Monaco... Eh ben, les dirigeants de Monaco ont profité pour parler à Thierry Bergstein et Juan Laporta, et apparemment, il y a vraiment des négociations en cours. Moi, je l'ai vu aussi sur Maca. Donc.
Ah, et donc ça a filtré aussi en Espagne, tu confirmes?
Ah oui, mais non, je pense honnêtement qu'il y a une vraie négociation. Après,
faut
savoir ce que ça va donner. Guardiola a dit qu'il ne comptait pas vraiment sur lui, et puis comme c'est un mec qui ne s'est jamais plaint, c'est pour le coup un vrai, mais vrai professionnel. Ils ont dit qu'à la limite, ils seraient même prêts à le laisser libre si jamais Monaco avait des problèmes pour assumer son salaire. Donc, à mon avis.
Ouais, mais c'est son salaire d'1 million d'euros par an, il a dit à peu près.
Voilà, ouais, mais parce que ce sera un prêt en fait. Donc,
Il est encore qu'il ait envie d'aller à Monaco.
Il est peut-être chaud pour y aller.
Franchement, je comprends pas trop pourquoi même des clubs plus gros que Monaco, quoi. Je comprends pas pourquoi l'OM a pas poussé plus pour l'avoir.
Par exemple.
C'est franchement un super joueur, quoi. Moi, le voir en pointe de l'attaque, même si c'est pas son poste numéro un, parce que à Chelsea, là où il avait vraiment brillé, c'est quand il jouait derrière les deux attaquants. Il avait franchement été super. Moi, je pense qu'à Marseille, ils auraient dû au moins tenter leur chance pour essayer de le prendre. Pareil à Lyon, parce que Lyon, ils ont les deux attaquants devant qui marchent assez bien. Et puis derrière, c'est Taffer et compagnie. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen d'aller le chercher, parce que c'est un bon joueur.
D'accord. Voilà pour la petite news, Gudjonsen, j'allais dire Brandao. Donc, il y a la petite news Gudjonsen. On peut passer au dernier match de la soirée. Le dernier match, donc ça va faire plaisir à Dan, c'était Lyon-Nancy. Lyon-Nancy et la victoire lyonnaise 3-1 avec le super but de Bastos, on l'a dit. Il est dans les réactions, vous pouvez regarder, avec le but de Lisandro, le but de Gomis. Je sais pas si quelqu'un a vu le match, vu que on sait que c'est retransmis sur Orange Sport, mais Dan, je suppose
c'est surtout qui avait Milan Inter.
Surtout qui avait Milan Inter, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, on va parler de l'étranger. Mais donc victoire lyonnaise, avec la manière 3-1 contre Nancy. Je pourrais pas parler du match parce que je l'ai pas vu personnellement. Personne l'a vu ici, c'est dommage. Et donc voilà.
Par contre, on a vu le but de Bastos.
Voilà. On a juste vu le but de Bastos. Ça fait donc vas-y Hugo.
Je me demande pourquoi Lisandro il a signé à Lyon, franchement. Il aurait pu viser beaucoup plus haut parce que là, il est vraiment en train de se balader et de montrer qu'il est largement au niveau de la Ligue 1, quoi.
À mon avis, dans une saison ou deux, il sera plus à Lyon, il sera au standing au-dessus, je pense. Un tremplin encore, peut-être. Mais c'est vrai qu'on aurait pu croire que Porto c'était aussi un tremplin. C'est vrai que c'est un choix pas bizarre, mais bon. Il aurait pu aller tout de suite au cran beaucoup plus haut, mais à mon avis, il va y aller mais dans une ou deux saisons, je pense.
Non, parce que là, il explose tout. Hein. Quand tu vois sur le terrain, il se donne à fond, mais même plus qu'à fond, il finit à chaque fois sur les rotules. Et
en plus, ouais, il est en confiance. Avec la sélection argentine, il a marqué son premier but. Tout va bien pour lui, et à mon avis, il va faire une très très grosse saison. Si ça part comme ça, ça va continuer, en tout cas.
Oui. Donc voilà pour le match de Lyon. Bah à part ça, on a donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment vu le match. On ne peut pas trop en parler. On m'a signalé que la défense de l'OL avait pas été terrible. Donc
Lyon qui reprend son trône quand même provisoirement évidemment puisque Bordeaux
juste devant Montpellier,
Marseille non. Juste doit être devant Bordeaux Montpellier quoi.
Voilà.
Et mais Marseille n'a pas joué, ni Bordeaux évidemment, ni le PSG. Donc on attend tout ça demain, mais quand même la nouvelle c'est que Lyon, moi je trouve, j'ai eu quelques échos du match, ça n'a pas été encore un grand match, mais là encore, comme contre Auxerre la semaine dernière, Lyon gagne, et Lyon gagne quand même correctement par 2 buts d'écart avec un beau but de Bastos. On revoit peut-être l'âme du gagneur qui commence à revenir. Moi, je suis assez confiant pour Lyon, justement, sur ce côté-là. Même sans coup férir, Lyon quand même gagne, et avec la manière, entre guillemets, quoi, si on veut, relativement.
Et apparemment, Lyon a trouvé son 11 titulaire, puisque Karlström a été titulaire encore une fois à la place de Makoun, et apparemment Pjanic ça va être vraiment sa saison à lui parce qu'il a été encore une nouvelle fois titulaire.
Enfin Lyon va mettre un bon joueur de ballon avec leurs deux récupérateurs.
Non, avec un seul.
Bah non, tout l'allant Karlström.
Ah oui, enfin joueur. Oui, enfin ça dépend si tu considères que Karlström joue dans un rôle de relayeur ou de récupérateur.
Oui, on est d'accord.
Par contre, défensivement, Bonnemer, je suis toujours pas rassuré, mais bon, à voir. Hein. Bonnemer en défense centrale, il faut attendre le retour de Boumsong peut-être. Mais...
D'accord. Voilà. Voilà pour l'OL et plus globalement, pardon, j'ai eu un petit problème, donc voilà, plus globalement pour la Ligue 1, excusez-moi, on rappelle vite fait le classement, donc Lyon seul en tête avec 10 points en attendant les matchs de, donc le choc Marseille-Bordeaux demain au stade Vélodrome, premier match au Stade Vélodrome de l'année pour l'OM, le match du Paris Saint-Germain à domicile contre Lille et le match Valenciennes-Toulouse. Donc voilà, dernier du classement avec toujours 0 points, 4 matchs Grenoble, ça va très très mal. Et Valenciennes qui a toujours 0 points et qui accueille Toulouse demain. Voilà pour le classement au niveau des buteurs. Il y a pas de change. Enfin, c'est les deux Bordelais qui étaient en tête. Ils ont pas joué aujourd'hui. C'est toujours Chamakh et Gourcuff au niveau des passeurs. Montserubio domine toujours le classement. Et au fair play, je sais que ça vous intéresse. Le fair play, bah, c'est toujours Bordeaux en tête. Donc voilà pour la Ligue 1, voilà pour la Ligue 1, on va parler des championnats tout de suite, on va tout de suite parler des championnats européens, ne partez pas, on parle de la Liga, le premier match du Real, la Bundesliga avec le carton de Bayern contre Frankfurt, la victoire de Manchester contre Arsenal et bien sûr le derby milanais et la claque donné au Milan AC par l'Inter du Milan. Voilà, tout de suite, on en parle des championnats européens.
Tu es un vrai passionné ? Le football est prêt pour toi ? Viens rejoindre l'équipe de Génération Soccer.
Voilà, donc on remercie la voix féminine. Je ne sais pas qui c'est qui nous a fait ce jingle. Voilà, on passe tout de suite au championnat. Comment ?
Toi.
Oui.
C'est toi la voix.
Non.
Il a voix. Franchement, connaissant Dal, vaut mieux pas savoir ce qu'on sait, faut pas qu'on en... sinon on est complice. On va enchaîner tout de suite sur l'Espagne, par exemple, hein, parce que je commence à avoir mal au ventre.
Vas-y, vas-y.
Et puis, donc voilà, première journée, enfin première journée de la Liga. Deux matchs au programme. D'abord, Real Madrid Deportivo La Coruña, donc ça commence de la meilleure façon possible. Dès le coup d'envoi d'honneur de la Liga a été donné par le meilleur athlète du monde, Usain Bolt. Le Real Madrid va faire à fond dans la publicité. Victoire 3 buts à 2 du Real. Des buts marqués par Ronaldo, Las, Raúl. Toujours Raúl, hein, qui marque le premier but de la Liga 2009-2010. Et côté du Deport, but de Ricky et Balerón. Donc voilà, ça a été une équipe du Real qu'on attendait avec sa compo quasiment type. Bon, il manquait toujours Sergio Ramos qui apparemment est blessé et Pepe qui paye toujours les conséquences de son pétage de câble contre Getafe. Donc ça a donné en gros Casillas, Arbeloa, Albiol, Garay, Marcelo, Las, Xabi Alonso, Kaká, Raúl, Ronaldo et Benzema. Donc ça a été un match assez moyen. Bon, c'est le premier match de la saison, donc il fallait peut-être pas attendre beaucoup de Real Madrid. Mais déjà le... Alors déjà, on a un élément très favorable pour les Madrilènes. Énorme match de Las, qui apparemment a enfin trouvé quelqu'un avec qui il était complémentaire au milieu de terrain. Lui qui n'a jamais été complémentaire avec personne. L'association avec Xabi Alonso marche bien, comme un peu dans le prolongement de ce qu'on avait vu lors des matchs d'intersaison. C'est lui qui est auteur du but de la victoire, une belle frappe de 25 mètres environ. Et sinon, il y a évidemment le débat qui est relancé. Raúl, toujours titulaire. Raúl qui marque encore. Est-ce que parce qu'il a marqué, ça voudrait dire que c'est la meilleure solution ? Moi, honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense que le Real Madrid va encore se faire aveugler par ce nouveau but du Real. Et puis Manuel Pellegrini va encore laisser Higuaín, par exemple, sur le banc. Et voilà la défense. Bon, la défense, il fallait pas attendre énormément, malgré le très bon match d'Arbeloa, parce que tout simplement, il joue avec Albiol Garay, une défense, une charnière plutôt qui devrait, je pense, jamais jouer, parce qu'ils sont absolument pas complémentaires les deux, c'est un peu le même style. Je pense qu'ils ont même montré tous les deux qu'ils ont fait l'exploit un peu d'être plus lent que Metzelder, donc c'est vous donner un peu le niveau de lenteur de cette défense-là. Marcelo, je comprends toujours pas tout le crédit qu'il a auprès de ses entraîneurs. C'est sûrement le meilleur joueur du monde à l'entraînement, hein, pour que Juan de Ramos et Manuel Pellegrini, qui n'est pas connu pour faire des passes droits, lui fassent autant confiance. Et sinon, côté Deport, Balerón qui, à 35-36 ans, montre qu'il a encore énormément de qualité. Il marque un but franchement magnifique. Mais bon, voilà quoi. C'était pas un match exceptionnel. Ronaldo, des très 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 mauvais jours. Il a tout tenté pourtant, il a dû tirer une dizaine ou une quinzaine de fois. Il a été pas loin de marquer, bon il a marqué sur penalty, sur une faute, sur une action qui a fait faute sur Raoul. Et puis il était pas loin de marquer un deuxième but sur une très belle frappe, mais dans l'ensemble, bah, le Real Madrid se cherche un peu. Alors après, faut pas se leurrer pour deux raisons. D'une, c'était juste le premier match de la saison, donc les trois points c'est l'essentiel. Deuxièmement, le Deportivo n'est pas n'importe qui. C'est quand même une équipe qui, depuis deux saisons, est en train de bien fonctionner. Faut pas oublier qu'il y a deux ans, par exemple, ça avait été la meilleure équipe des phases des matchs retour. Donc, ils sont franchement en pleine progression et 3-2, faut pas trop faire la fine bouche, quoi.
Habib, par rapport à la Sandiara, ce soir, ses notes me disent qu'il a joué dans un rôle de récupérateur, relayeur, meneur et qu'il a donné le ton à l'équipe du Real. Tu penses que pour l'équipe de France, ce serait intéressant qu'il joue comme ça?
Bah, ça dépend.
Pour la Serbie et la Roumanie?
Si, ça dépend. En fait, il joue un peu plus haut que Xabi Alonso.
Parce que Toulalan, par exemple, il joue très derrière. Donc, ce serait intéressant que la Sandiara apporte offensivement. Parce que c'est le problème de l'équipe de France, à mon avis. C'est les deux milieux défensifs qu'on a actuellement.
Ouais, mais le souci, c'est que Xabi Alonso, c'est pas Toulalan, quoi. Et c'est un peu ça. Xabi Alonso, ouais, il est capable de te mettre un bon ballon à 50 mètres, quoi. C'est le vrai quarterback. Donc, à son registre, je pense que c'est le meilleur, quoi. Il est passé nettement devant Pirlo, qui joue un peu dans le même registre. Il est capable d'orienter le jeu de très très loin. Alors que là, il oriente le jeu plus avec ses montées. Il m'a rappelé un petit peu, bah, toute proportion gardien, un Daniele De Rossi, par exemple, qui est très 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 fort dans les phases où, dans les phases de contre-attaque où il jaillit très vite. Il arrive à se projeter très 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 vite vers l'avant. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? Oui, mais moi, par exemple, il faudrait soit un relayeur ou un récupérateur un peu plus technique, enfin milieu axial, hein, pour pas jouer sur les mots. Alors, dans cette condition-là, le plus armé, ça me paraît Diaby ou Cherou, qui sont quand même capables de faire de belles choses, ou alors prendre vraiment un super joueur défensif, et là, tu prends... Même si ça n'a pas marché par le passé, tu persistes avec Aloudjara. Toulalan, faut arrêter le délire, quoi. Faut arrêter de nous faire croire que ce mec-là est un super joueur, un joueur de l'équipe.
Ah, moi, je vais te contredire sur Toulalan. Je veux dire, pour l'avoir vu jouer au Parc Astrid, il tient le milieu mardi, je veux dire. Il a tenu le milieu de Lyon à lui tout seul. Hein. Je veux dire, on a parlé de Lisandro et ses trois buts, mais pour
moi, enfin, c'est tout. Tu dis quoi, avec Anderlecht, moi, je prends comment il s'appelle, le petit Roméo, et puis on va mettre la misère à la défense. Hein. Il n'y a pas de problème, ils sont
très
mauvais.
Oui, mais je veux dire, si t'es Anderlecht parce que c'est le dernier match que j'ai vu de Toulalan, mais...
Non, mais je sais, mais de toute façon, ouais. toi, tu le sais mieux que moi, ça. Je pense qu'il y a la moitié de la France qui a été très, très, très déçue par Anderlecht. On pensait vraiment que ça allait être une belle équipe ou... Là, c'est niveau relégation de Ligue 1, voire Ligue 2, quoi. C'était ultra faible.
Ah oui, c'est clair.
Donc après, c'est évident d'être rayonnant contre ça, entre guillemets. Après, moi, je te dis honnêtement, à la limite, avec Cherou, ça peut être pas mal du tout. Franchement, c'est Cherou parce que c'est tout simplement le joueur qui a le profil le plus similaire à Xabi Alonso. Et puis, on voit bien qu'il s'entend beaucoup mieux avec Xabi Alonso, franchement.
Ah, d'accord. Voilà. Et pour Benzema, tu le mettrais titulaire, toi, pour la Roumanie et la Serbie?
Bah oui, je pense que oui.
Ouais. Au vu de ce soir.
Il n'y a pas trop. Ah, au vu de ce soir, non. Il n'a pas été extrêmement bon. Mais il a été bon lors de l'intersaison, franchement. Après, le problème, c'est que Benzema, tu as. C'est même pas un choix cornélien, parce qu'il est quand même vachement plus simple à prendre. Si tu te dis que Benzema, tu peux l'avoir pour 10 ans encore, voire plus en équipe de France. Donc. Est-ce que c'est pas le moment de vraiment lui faire confiance sur 3-4 matchs? Alors, j'étais pas trop partisan de cette hypothèse-là il y a encore 6 mois, mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec Madrid, tu te dis, bon, on s'en fout, on va le mettre en pointe, on va à la limite construire l'équipe autour, parce que si jamais ça prend, il y a moyen d'avoir une attaque vraiment démentielle, quoi, avec Gourcuff à la récupération, meneur de jeu. Un Ribéry à gauche, parce que là Thierry Henry, apparemment ça va être très compliqué pour qu'il revienne tout de suite. Et puis c'est à droite, il y a surtout un problème en équipe de France, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se détache, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà. Et bon, j'imagine qu'il y a des Hugo. Questions sur Benzema ou autre, alors allez-y.
Ah, est-ce que ça marche bien avec Raoul?
Bah oui, oui. L'avantage avec Raoul, si tu veux, c'est que il y a quasiment aucun joueur qui ne marche pas avec Raoul. C'est Raoul qui va moins bien marcher. c'est con à dire, mais c'est comme ça. Raoul a été très bon avec Morientes, ça tout le monde le connaît. Pas besoin de refaire un récap là-dessus. Avec Ronaldo, première saison, c'était pas trop mal. Ensuite, il a décliné. Alors lui a décliné, mais Ronaldo est resté à un bon niveau. Et après, ça c'est toujours pareil. Hein. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour ce qui est la cause, quelle est la conséquence. On peut penser qu'en fait Raoul est moins bon parce que Ronaldo est très bon, ou alors se dire que justement si Ronaldo reste aussi bon, c'est tout simplement parce que Raoul s'est sacrifié. Je suis pas trop fan de Raoul, mais je pense honnêtement que c'est un mec qui se sacrifie quand même souvent pour que le joueur, la pointe, quoi, puisse évoluer à un meilleur niveau. Et je pense qu'avec Benzema, il n'y aura pas de problème. Surtout que Benzema, en plus d'une certaine complicité avec Raoul, a montré qu'il avait déjà quelques automatismes avec Ronaldo et Kaka. Donc, moi, je pense que c'est un peu le problème, c'est un peu contradictoire parce que j'aurais voulu, si tu veux, qu'on teste un peu plus l'option Higuain Benzema en intersaison. Mais comme ils sont partis quasiment tout le temps avec Benzema et Raoul, bah, il va falloir se contenter de ça à Madrid. Quoi.
Et d'ailleurs, Habib, tu pars pour revenir au premier but là, avec Benzema et Raoul. Le but de Raoul, quoi. Tu parlais surtout que Raoul qui marque un but, mais sur cette action, je veux surtout souligner, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais le super appel de Benzema, l'ouverture de Kaka, et c'est ça qui fait le but, quoi, non?
Bah oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une certaine complicité. Il a fait un faux appel qui a laissé tout le monde dans le vent, et c'est justement pour ça que Raoul a réussi à marquer. Moi, je te dis, c'est le seul le reproche, c'est peut-être un grand mot, mais c'est ce qu'aurait peut-être dû tenter un peu plus Pellegrini, c'est de tester un peu plus Raoul avec Higuain aussi, Raoul Benzema avec Higuain et tout. Là, il partait toujours avec cette option-là. Pour l'instant, ça marche. Il n'a pas spécialement de raison de changer, mais bon, c'est quand même dommage. Hein.
Avec Higuain aussi qui est rentré, il a été plutôt pas mal, non, d'ailleurs. Assez remuant.
Oui, c'est ça. C'est que je trouve franchement... Je trouve honnêtement que c'est les deux, en plus, ils ont un profil un petit peu similaire. Ils ont quand même de grosses... Mais je pense qu'ils pourraient
assez bien complémentaires, fonctionner. Assez complémentaires, hein. Exactement.
Ouais, je pense qu'ils pourraient très bien fonctionner tous les deux parce que tous les deux, c'est des gars très fins techniquement. Ils arrivent à te mettre de bons petits ballons. Et la différence entre ces joueurs-là et d'autres attaquants, c'est que Benzema, par exemple... Quand il met des ballons à Ronaldo, il va lui mettre exactement là où il faut. Il ne va pas lui mettre 50 cm trop haut. Il ne va pas lui donner trop rapidement. Il la met exactement comme il faut. Higuain aussi. Mais bon, le problème, c'est que Raoul, malgré tout ce qu'on peut dire, il a quand même marqué 24 buts l'an passé. Alors Higuain a peut-être marqué plus, mais il a quand même marqué 24 buts. Donc, dire qu'il faut mettre absolument Raoul sur le banc, c'est malheureusement pas une vérité ou une nécessité, c'est un point de vue. Et c'est justement sur ça que s'appuie Pellegrini.
Et justement, quand tu dis mettre Raoul sur le banc, tu crois justement que Pellegrini oserait faire ça, quoi, par rapport aux anciens entraîneurs du Real?
Bah, malheureusement, je pense que
non. C'est un peu, enfin voilà, c'est un peu le mec qu'il faut pas toucher, quoi.
Ouais, je commence à y croire de moins en moins, quoi, franchement. Ouais. C'est ce que je t'ai dit quand j'ai vu. Je me répète, mais quand à l'intersaison tu tentes quasiment pas de voir ce que peut donner Higuain et Benzema, voilà. D'accord. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Voilà. Oui. Donc, on a.
Et puis, bon, on va enchaîner avec le deuxième match. Pardon ?
Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru que j'avais un problème avec mon micro. Vas-y, Abid.
Ton équipe de Tenerife.
Ouais, c'est donc Saragossa à Tenerife. Le choc des promus. Hein. Victoire 1-0 de Saragossa à domicile grâce à un but de Javier Arismendi, l'ancien Valencien. Et du Deport aussi. C'est une victoire très dure parce que pour les fans de Tenerife, dont je fais partie, évidemment, parce que autant la première mi-temps, il y avait un léger avantage pour Saragossa, autant en deuxième mi-temps, c'était une grosse, grosse domination de Tenerife. Ils ont eu énormément d'attaques, mais malheureusement, faut dire qu'il y a eu un recrutement trop léger, quoi. Je comprends toujours pas pourquoi. Que Tenerife a recruté aussi peu. Alors, ils ont quasiment vendu personne, ça c'est l'avantage. Pour tout vous dire, c'est rare honnêtement, hein.
même si ça va paraître très arrogant ce que je vais dire, mais c'est très 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 rare que je me fasse avoir comme ça, parce que j'ai absolument pas vu que Alfaro, qui était une des stars en deuxième division de Tenerife, finalement restait. Et ça m'a énormément surpris, parce que c'est un des beaux espoirs du football espagnol qui était prêté par le Sevilla. Et voilà, le problème, c'est que moi, je vous donne un petit peu les recrues de Tenerife. Ça fait Diney, Alfaro, Roman Martinez et Belvis. Donc, je pense que ça vous dit rien. Bah oui, parce que franchement, ça... Bon, il n'y a rien à dire, quoi. Alfaro prêté par Sevilla, Roman Martinez, c'est un milieu de terrain qui a pas mal joué avec l'Espagnol l'an passé. Belvis, c'est un môme, il a déjà 24 ans, mais il n'a pas de grande expérience en première division. Et Diney, c'est un mec qui arrive de l'Atlético Paranaense et qui joue au Celta Vigo. Donc,
mais est-ce que Tenerife a les moyens pour recruter aussi? C'est ça le problème, non?
En théorie, quand tu montes de catégorie, ben, tu as quand même un petit peu d'argent qui rentre dans les caisses. Ils ont recruté pour zéro, c'est 4 prépayants. Donc tu peux penser qu'il y aurait moyen de recruter. Là, ils n'ont absolument pas recruté. Et puis les joueurs, franchement, c'est... je veux dire, il y a un seul international, c'est Comé, qui est international avec le Cameroun. Mais voilà, quoi, Comé, il joue quand tout le monde est blessé, quoi. Et puis, du côté de Saragossa, c'est déjà nettement plus... il y a des noms plus ronflants, hein. Il y a Carrizo, le gardien argentin international, Ayala, German Pennant, Uche, que vous connaissez peut-être ou pas, Arismendi, qui est international espoir, Marco Babic, qui était passé par Leverkusen, le club de Dizzy. Donc voilà, quoi, il y a au moins des internationaux, il y a des gens qu'on connaît, alors que du côté Tenerife, c'est nul, quoi. C'est... Les trois meilleurs joueurs, c'est des gars qui ont... c'est le trio qui a très bien fonctionné en Segunda l'an passé, avec Comé à gauche, Alfaro à droite et Nino, le Pichichi de l'an passé. Mais franchement, c'est trop, trop léger, quoi. Et puis, pour revenir au match, c'est très cruel de voir que dès la première journée, ben tu te fais avoir comme ça, parce qu'il y avait moyen de faire autre chose. Ils se sont fait niquer en beauté, quoi, parce que c'est un énorme péché de naïveté. Là, on a bien vu que c'était le promu qui était monté, qui s'était fait niquer, quoi, dès la première journée. Il n'y a pas d'autre mot, franchement. Voilà.
D'accord.
Et puis, donc, voilà, je vous donne rapidement les matchs de demain. Donc, Malaga Atlético Madrid, Atlético Espagnol, Mallorca Ceres. Donc, Ceres, qui va le club de Jerez de la Frontera, qui va jouer son premier match, il me semble, en première division. Osasuna Villarreal, Racing Getafe, l'énorme choc Valencia-Sevilla à 19h demain, Almeria-Valladolid, et puis lundi à 10h, Barcelone-Sporting. Et puis, juste une petite info de deuxième division, le Betis-Sevilla a gagné son premier match 3-0, et ça fait plaisir.
Sans
Matea Kesman, avec des buts de Juanma Cafa et Sergio Garcia. Et puis un très 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 gros match de Pavone. Donc si Pavone se met à bien jouer, alors là on va monter facile, hein.
Voilà,
c'était
donc voilà pour la page Espagne, Habib.
Oui,
merci. Donc j'ai à noter la victoire du Barça hier en Super Coupe d'Europe contre le Shakhtar Donetsk.
Voilà. Avec un but de PD
pour ceux qui n'étaient pas sur terre hier. Voilà. Donc on peut passer à la boulie, je pense, hein. Si cela vous va, messieurs. Donc, et on accueille, bien sûr, le grand, le beau, le fort. Si.
Je me disais, ça pouvait être que moi.
sur la Bundesliga, vas-y, lâche-toi.
Voilà, bonsoir à tous, d'abord. Donc voilà, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé aujourd'hui en Bundesliga. Et en partie hier soir. Donc hier soir, Mönchengladbach a gagné 2-0 contre Mayence, et Mönchengladbach qui la saison dernière s'est sauvé à la toute dernière journée, fait un bon début de saison, et je crois qu'ils ont 6 points en 4 matchs, ou 7 points en 4 matchs, pardon, ils se retrouvent 4e en ce moment, donc un bon départ pour Mönchengladbach. Stuttgart et Nürnberg se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 partout. Et Schalke 04, pour les Français, a perdu à domicile contre Fribourg. Et c'était un match un petit peu particulier, un petit peu échauffé, puisque en fait, il y a eu juste avant le match des rumeurs comme quoi le latéral de Schalke 04, Rafinha, partirait au Bayern. Donc il a été sifflé toute la partie et pendant tout le match, et donc c'était un petit peu tendu l'atmosphère. Au final, juste après le match, les clubs ont démenti. Ce soir, Karl-Heinz Rummenigge, donc du Bayern, a confirmé l'intérêt pour Rafinha, donc c'est un petit peu le bordel, j'ai envie de dire. Bref, Schalke 04 s'incline donc à domicile contre Fribourg, le promu. L'autre match, c'était le Bayer Leverkusen. J'ai grande joie à vous en parler. C'est imposé 2-1 contre le VfL Bochum, mais bon, ça aurait dû être une victoire de l'ordre du 5-1, 6-1, avec entre autres une statistique assez comment dire, je ne trouve pas le mot. Bref, une statistique qui en dit long. Leverkusen a tiré 35 fois au but et Bochum 5 fois. 32 fois et Bochum 5 fois, pardon. Donc c'est assez clair. Et j'aime préciser aussi le quatrième but de Stefan Kisling en 4 matchs. Et il a marqué à tous les matchs jusqu'à maintenant. Donc lui qui veut tellement aller en Afrique du Sud l'été prochain, eh bien je pense que c'était un bon signal pour l'entraîneur Yogi Löw, le sélectionneur de l'équipe nationale allemande.
Ça me fait du mal de te voir comme ça, Dizzy, parce qu'il va encore s'écrouler en fin de saison et tu vas, on va encore devoir te ramasser la petite cuillère. C'est chiant, l'an passé c'était pareil. Les premières émissions, t'étais là, tu chantonnais. On dirait M. Pokora, quoi. T'étais là. Kisling. Et puis voilà, quoi. Après, il y a eu du 5-1 dans les dents, et puis voilà, t'as plus été le même. C'est dur.
C'est vrai, ça m'a brisé cette expérience. Non, mais sérieusement, on va voir au fil de la saison. Mais après, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Par rapport à la saison passée, je vais peut-être pas développer.
Parle d'Erinder Diok, ça fera plaisir aux petits.
Alors, Der Diok, ce jeune attaquant de 20 ans, 21 ans, je crois maintenant, le Suisse, bon, c'était un match vraiment horrible pour lui parce qu'il s'est créé beaucoup, beaucoup d'occasions et des occasions très, très nettes et il a pas pu en mettre une seule. C'était vraiment affreux pour lui aujourd'hui. C'était assez pathétique à voir.
Non, mais je ne veux dire pas juste aujourd'hui. Tu m'avais dit qu'il avait une super moyenne, tout ça, donc.
Ah, c'est Helvetia qui disait ça, puisqu'il est suisse.
Donc c'était lui, mais donc voilà, quoi. Apparemment, il fait un très très bon début de saison, non?
En fait, il profite de la blessure de Patrick Helmes. Donc il joue avec Stefan Kisling en attaque et ils harmonisent très très bien tous les deux. Et bah c'est encore un jeune attaquant qui a encore des choses à apprendre pour jouer en Bundesliga, mais je crois qu'il a marqué 3 buts en 4 matchs, c'est pas mal aussi. C'est lui qui qualifie Leverkusen en premier tour au premier match, pardon, de Coupe d'Allemagne. Il marque un doublé contre Fribourg, donc ouais, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait, et il remplace très bien Patrick Helmes pour l'instant, et on voit vraiment que ce gars-là, il a du talent et il en veut. Et moi, j'avais été le voir à l'entraînement, et c'est vraiment un gars sympa et très humble, donc je pense qu'il pourrait aller loin, et il a encore une marge de progression assez importante.
Ah, le favoritisme allemand, hein. Ça, j'ai pas pu remarquer. Kisling, 4 buts en 4 matchs, c'est super, on applaudit. Et Der Diok, 3 buts en 4 matchs, il a beaucoup de choses à apprendre, il lui manque des, c'est pas très bien. T'es vraiment un boche, toi, hein.
Non, la différence, c'est que Stefan Kisling, au-delà des 4 buts, il est très très important pour l'équipe. Si tu avais vu le match d'aujourd'hui, tu saurais de quoi je parlerais.
Non, mais faut pas déconner, je regarde pas les équipes de 3ème division, quoi.
Non, Marvolo, non, joue pas ça.
Oh, mais c'est ironique, j'ai regardé Betis Cordoba, alors.
Je suis blindé, là. Bon, bah, pour te prouver mon propos. Si ça peut te convaincre un petit peu plus, si
au pas. Non, mais je sais très bien, tu me bombardes de stats. À chaque fois qu'il fait une bonne passe, j'ai le droit à 3 commentaires, alors bon.
Non.
Connais ton Kisling.
C'est pas ça. Mais bon, pour terminer sur le sujet, Jo Preynckes qui a quand même gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, n'est-ce pas? a déclaré aujourd'hui a fait ressortir la performance de Stefan Kisling, qui a été le meilleur joueur et qui a eu la meilleure note du match. Et il a déclaré que clairement il devrait être nommé en équipe d'Allemagne, ce qui fait très très rarement cet entraîneur. Bref, on va pas épiloguer sur Leverkusen, on va continuer avec Hoffenheim qui s'impose 1-0 à Hanovre. Résultat un petit peu décevant pour Dortmund qui n'arrive pas à prendre les 3 points à Francfort, résultat un but partout. Et le gros match qui se jouait à 18h30, puisque maintenant il y a un match qui se joue à 18h30 en Bundesliga le samedi. Le gros match c'était donc le Bayern de Munich contre le VfL Wolfsburg, le champion en titre. Et résultat final, vous le savez peut-être déjà, le Bayern s'est imposé 3-0. Et bon, ce sont les 3 premiers points du Bayern cette saison, il était temps. Avec les 3 précédents matchs, ils avaient pris que 2 points. Et donc maintenant les 3 premiers points avec Arjen Robben qui est rentré à la 46e minute de jeu, donc juste après la mi-temps, et, enfin au début de la seconde mi-temps. Et il a fait un match, je dirais pas extraordinaire, mais très impressionnant pour un premier match. Et il marque un doublé dès son premier match. C'était vraiment pas mal ce qu'a montré Arjen Robben. Et bon, petite remarque, c'est que en deuxième mi-temps, ce sont donc Arjen Robben et Franck Ribéry qui sont rentrés. Et à partir de ce moment-là, on a senti un Bayern transformé par ces deux joueurs. Il y avait tout d'un coup, il y avait de la percussion, il y avait de l'idée. C'était le Bayern qui faisait peur à nouveau. Et en première mi-temps, c'était un petit peu le Bayern qui dominait certes, mais qui était un peu pathétique pour sa domination parce qu'ils n'arrivaient pas à conclure les occasions. Et c'était un petit peu statique. Donc Arjen Robben qui était donc venu du Real Madrid pour 25 millions d'euros. Je pense que lui et Ribéry pourront faire vraiment de très bonnes choses au Bayern. Après va falloir confirmer pour Arjen Robben. Demain se joueront les matchs de Berlin contre Brême et Hambourg contre Cologne. Et je vais peut-être vraiment Marvolo. Ça me fait plaisir de dire ça, mais je pense que je vais rappeler le classement quand même. N'est-ce pas?
Oui.
Alors, premier avec 10 points, le Bayer Leverkusen. Deuxième avec 7 points, Hambourg qui joue demain, donc un match en retard. Et troisième, Schalke qui a 7 points, également, mais une moins bonne différence de but. Et j'oubliais de préciser que le Bayer Leverkusen a une différence de but de plus 7 après 4 journées. Oh mon dieu, c'est impressionnant, waouh, c'est génial. Et les derniers sont, les trois derniers sont Berlin, Nuremberg et Cologne.
Et j'ai oublié de préciser que le Betis est en tête de la deuxième division avec une différence de but de plus 3.
Ah, on est tous contents.
Bah, on s'en fout de la Bundesliga aussi, connard.
Eh, tu calmes Marvolo, connard.
Donc voilà pour la page allemande d'Izzy, merci. On va finir en beauté avec la première ligue. Il y avait un choc aujourd'hui chez nos confrères de Canal Plus Sport. Manchester United qui a accueilli Arsenal, victoire de 2-1 de Manchester. Hugo, t'as vu le match entièrement, je l'ai vu aussi, on pourra en parler, mais vas-y, je te lance, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match?
Bah déjà que le 11 qui avait aligné Arsenal contre Manchester, ça a été un très très bon 11, puisqu'on a vu une très bonne équipe d'Arsenal jusqu'à la 50e, 60e minute, jusqu'à l'égalisation de Rooney. C'était assez impressionnant à voir sur le terrain, même si l'équipe avait du mal à se lancer au début, parce que Manchester avait au point de tactique spécial pour Arsenal, avec beaucoup de physique sur le terrain. Mais voilà, une fois qu'Arsenal a réussi à se lancer, ça a été presque du sadomasochisme.
Comment?
Quoi?
Qu'est-ce qui a été du sadomasochisme, pardon?
Bah une fois qu'Arsenal a réussi à jouer son propre jeu.
Vas-y. Oui, d'accord.
Sur le penalty de Rooney, là, je suis très sceptique parce que Rooney se laisse très bien tomber.
Oui, c'est vrai.
Parce que si on suit bien le joueur...
Il y a un penalty, il faut pas déconner. Mounia, il est vraiment très con.
Ouais, là aussi il est con, mais Rooney, d'ordinaire,
il ne serait pas tombé, il aurait continué à courir.
Ouais. Bah, je sais pas, je suis désolé, mais des fois, faut pas oublier plutôt que c'est des êtres humains, quoi, et que anatomiquement, c'est très difficile d'avoir une main sur ta cheville, de rester debout, de plonger. Tu vois, c'est pas tous Tony Jaa, quoi, ils ont pas tous des qualités de gymnaste. Je sais pas.
Non, mais le Rooney d'ordinaire, il serait pas tombé.
Ouais.
Bah, pour l'avoir vu plusieurs fois, tu vois. Il y a eu des situations pires que ça, où il se faisait tacler et il restait debout. Et il ne tombait pas. Donc,
Là, c'est le fan de Arsenal qui cherche la petite bête. Hein.
Mais je dis pas qu'il n'y a pas pénalty, mais je dis que Rooney s'est laissé tomber. Le pénalty, je pense qu'il a pas trop...
Ouais, exagéré. Eh ben, y a une différence. Soit il simule, soit il exagère. Simuler, c'est complètement n'importe quoi. Exagérer, moi, c'est même pas condamnable. Hein. Parce que à partir du moment que tu exagères, c'est qu'il y a faute. Donc... Après, s'il a envie de se tenir et simuler une crise d'épilepsie.
Voilà. Et sinon, par rapport au match, Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé?
Par rapport au match, je trouvais Manchester assez chanceux sur le fond. Puisque bon, il gagne grâce à un but magnifique contre son camp de Diaby. Juste avant le but contre son camp, il y avait une barre de Van Persie. Mais voilà, sinon. Arsenal a globalement dominé, mais bon, Manchester a réussi à faire la différence hein, avec son expérience.
Tu veux dire qu'encore une fois, il y a eu 11 hommes contre 11 gamins? Moi, c'est... Non, mais parce que moi, j'avais vu les premiers matchs d'Arsenal et j'étais impatient de les voir contre une grosse équipe. Maintenant, j'ai plus de certitude. Ça reste une équipe de subutéo, sur le résumé que j'ai vu, qui était assez large d'ailleurs. Ça reste une équipe. Ils aiment bien faire tourner le ballon, ils aiment bien jouer comme Olivier Tom, mais bon quoi, au bout d'un moment ils font un peu de vis. Toi tu dis que Rooney se jette et tout, moi je pense que c'est ce petit vis là un peu qui leur manque. Et puis bon, ça se joue, de toute façon les gros matchs comme ça généralement ça se joue à rien. Arsenal a le niveau pour aller pour gagner des titres, mais il va falloir qu'ils deviennent un peu plus méchants sur le terrain. Et quand on voit les joueurs qu'ils ont, je suis pas sûr qu'ils en soient vraiment capables.
Ah, surtout, ce qui me fait peur, c'est le banc. Parce que là, faut se dire qu'on n'avait pas Fabregas, qu'on n'avait pas Nasri, qu'on n'avait pas Rosicky, et que déjà on était en fin de banc. Quoi. On jouait avec ce qui nous restait sur le banc. Et que derrière, c'est du Ramsey.
Et Eboué et lié droit.
Eboué et lié droit, oui. Ça fait mal au cœur de le dire, mais c'était le cas.
Oui, et Habib, mis à part ça, comment t'as trouvé le niveau de Manchester qui, malgré la victoire, moi j'ai trouvé Manchester pas très... Bah, je sens que l'absence de Ronaldo se fait sentir vraiment. Pour l'instant, Valencia n'a pas, à mon avis, n'est pas le remplaçant escompté. Et là, on voit la différence entre le Manchester de l'année dernière et celui de cette année. Donc attention, malgré la victoire, faudra pas tirer des conclusions trop hâtives.
Tu m'as fait une question à la Arnaud. Ça veut dire qu'à la fin de la question, je sais plus ce que tu m'as posé. Donc, en résumé, ta question, ça donne quoi?
Comment t'as trouvé Manchester, le Manchester sans Ronaldo?
Pas que avec ce match-là. J'ai aussi vu le match contre première journée. C'était contre
Birmingham.
Birmingham, j'ai vu un petit peu contre Burnley. Franchement, avec tout ce qu'on peut lui mettre dans la gueule, Ronaldo, ça reste un joueur d'exception. Exactement. Tu perds Ronaldo, tu le replaces soit par un autre joueur d'exception, soit par trois bons joueurs. Au final, il récupère Valencia, qui est un bon joueur, effectivement. Owen, moi, je pense qu'il est cramé, même si de temps en temps, il aime bien te faire des petites phases avec 5 buts en 7 matchs, et tu penses que c'est bon, tu es reparti sur le Owen de la grande époque. Bah, au final, non. Mais tant que ça marche, pourquoi pas. Mais le problème de ce genre de projet, c'est que un peu comme Arsenal, avec son, comme je l'avais dit, hein, une fois qu'ils ont mis une branlée à Everton, ils vont penser que le recrutement est terminé. Là, je pense que ça peut être le cas aussi à Manchester. Il faut quand même recruter un joueur. Et puis, généralement, ce genre de conséquences, tu les tires qu'une fois que tu te prends une grosse claque. Alors... Moi, je pense qu'il devrait faire un petit peu moins confiance aux frères Da Silva, Welbeck, Makeda, tout ça, et prendre encore un autre joueur. Mais le problème, c'est que qui y a-t-il encore sur le marché de transfert? Et je pense que quand tu vois que Robben est parti à 25 millions, il y avait peut-être moyen de le prendre. Quoi.
Oui, c'est exactement. Et Donc et dans cet après-midi, il y avait également le match de Liverpool, mais on va en parler, enfin, on va pas en parler, mais avant, pour finir sur le match de Manchester Arsenal, Hugo, tu voulais parler du bon match de William Gallas.
Bah ouais, Gallas qui l'année dernière frôlait le ridicule par moment, et là il a été assez bon, voire très bon. Rooney, il est passé qu'une fois et bon, ça fait penalty, mais sinon il a très bien tenu, il a fait très peu d'erreurs, voire aucune. Ça fait du bien de retrouver un Gallas à ce niveau-là, quoi. Et c'est surtout bien pour l'équipe de France d'avoir un défenseur de niveau, je dirais, international, parce que là on a vu un excellent Gallas, quoi.
C'est vrai. Pour avoir vu le match, j'ai trouvé un bon Gallas. Mais par contre, Diaby, c'est, en plus de son but contre son camp, c'était pas le même Diaby que la semaine dernière.
Ouais. Mais techniquement, il a réussi à faire quelque chose pas mal. Parce que tu vois, il a quand même réussi à mettre un petit pont contre Fletcher.
Ouais, mais bon, ça servit à rien, quoi, finalement.
Ouais, si, c'était...
Ah, voilà.
Oh, la réflexion de Footix. Non, il a été bon, il a fait un petit pont.
Non, mais...
je veux dire, moi, Diaby, en plus, c'est un joueur que j'aime beaucoup, quoi. Franchement, de toute façon, ça s'est vu, hein, quand je propose Diaby en équipe de France, c'est que j'ai un minimum d'admiration pour ce joueur-là, mais... le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'il s'est déjà blessé plusieurs fois assez gravement. Donc, moi, je pense que ce mec, il a un super potentiel, il a une grosse marge de progression. Mais bon, ça arrive de temps en temps de faire un mauvais match. Ce qui est chiant, c'est que quand tu le fais contre Manchester, ben tu vas être doublement pénalisé, quoi, c'est tout.
Je l'ai trouvé pas si mauvais que ça. Il a fait quand même des belles actions, notamment juste après son but contre son camp, il a failli égaliser. Et c'est vrai que ça restait quand même en dessous de ce qu'il avait montré avant. Il était beaucoup plus percutant, il était beaucoup plus à l'aise, il faisait surtout les bons choix. Alors que là, bon, il a souvent tenté des trucs perso et puis ça a pas fonctionné. Et puis aussi à souligner que Diaby avait fait une préparation avec l'entraîneur de l'Adi Doucouré. Il a pas été en vacances et ça va peut-être payer.
Renaud Longuèvre.
Oui.
Voilà. Même quand l'Adi Doucouré, quand tu vois ses résultats, est-ce que c'est le bon coach à prendre?
Bon. Bah après il a l'envie. C'est pas après le coach.
Bref. Ou sur la première ligue, je vais rappeler les derniers résultats, voilà, les matchs qui se sont déroulés cet après-midi. Donc de l'autre côté de la Manche, il y avait le match de Liverpool qui a battu Bolton au Reebok Stadium 3-2. Wolverhampton et le City, match nul 1-1. Blackburn Rovers et West Ham 0-0. Stoke City a battu Sunderland 1-0. Tottenham toujours premier.
Non, c'est Chelsea.
Comment?
C'est Chelsea les premiers.
Ah oui, pardon, Tottenham, enfin, avec le même nombre de points que Chelsea, mais avec une moins bonne différence de but, donc qui a gagné contre Birmingham City à domicile. C'est un but dans les tout derniers instants de Lennon, Chelsea a battu Burnley, 3-0. Voilà, donc pour la première ligue. Par rapport à la Serie A, on y reviendra demain. Juste à signaler donc que Bari a fait 0-0 contre Bologne et que l'Inter a étrié le Milan AC 4-0. On reviendra sur ça là demain avec Arnaud. Demain on reviendra également sur le gros match de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui reçoit les Girondins de Bordeaux. Voilà, donc demain grosse émission en perspective. On vous retrouve à l'écoute, on espère, et donc salut à tous. Là on se retrouve avec la playlist. Et un petit coucou à Alice. Ça arrive en plus.
Radio Génération Soccer. Radio.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se lleva mi corazón.
baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar, mira cómo sube y baja.